Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Bonsoir à tous et à toutes. Et merci d'être venus pour cette première édition du Forum du Rage. Ce forum, c'est la première édition et nous voulons, ça veut dire l'objectif d'organiser ce forum qui sera un forum périodique. Donc chaque fois, donc on va l'organiser exceptionnellement pour le mois de Ramadan. Donc ça sera chaque semaine. Donc chaque vendredi, donc on aura 4 éditions. Et prochainement, bien sûr, ça sera peut-être une fois par 15 jours ou une fois par année. Donc c'est un forum qui se veut un espace de débat, un espace. Donc comme je viens de dire, donc je m'excuse, donc c'est, ça veut dire c'est sera périodique. Donc exceptionnellement pour le mois de Ramadan, ça sera chaque week-end, donc chaque vendredi. Donc on aura 4 éditions. Mais après le mois de Ramadan, donc on va l'organiser une fois par mois ou une fois par 15 jours. L'essentiel, on va annoncer ça durant la dernière édition du mois de Ramadan. Donc on veut faire de ce forum de rage un espace de débat, un espace de partage, un espace de réflexion où à chaque fois on invite une personne du monde politique et économique, associatif, syndical, des personnes ressources académiques, donc pour présenter, traiter, aborder une question d'actualité devant une assistance composée de citoyens, militants, associatifs, syndicaux et politiques, devant même les journalistes. C'est ce forum, on souhaite de faire ce forum un espace pour se réapproprier déjà des espaces, surtout dans le contexte actuel, on enregistre on perd de plus en plus des espaces de débat. Il y a des interdictions, des empêchements de manifestations, de réunions, surtout dans des espaces publics. Donc nous voulons contribuer à travers ce forum au débat national sur des questions d'actualité. Et nous souhaitons que ce genre de rencontre, ce genre de débat se multiplie parce qu'il est très important aujourd'hui de se réapproprier de ces espaces de débat et de créer nos propres supports, nos propres espaces de débat, surtout face au contexte actuel, face au rouleau compresseur répressif du pouvoir public ou du pouvoir qui empêche toute voix discordante pour s'exprimer. Donc pour la première édition de ce forum, en tant qu'association de jeunes, nous avons choisi un thème, un sujet d'actualité qui touche effectivement, c'est la population juvénile qui représente la majorité de la population algérienne, mais aussi ça concerne toute la société. Ça ne concerne pas uniquement une association ou deux, ça concerne tout le monde. Et d'ailleurs, ces derniers temps, comme vous le saviez, il y a un mouvement extraordinaire mené par l'intersyndical. Donc, autour de l'avant-projet sur le code du travail et aussi sur le pouvoir d'achat et la loi sur la retraite, nous, tant qu'association, nous avons soutenu l'intersyndical dans la mesure du possible. Nous étions avec eux sur le terrain parce que nous croyons que c'est une question qui concerne tout le monde, soit des travailleurs, soit les chômeurs, y compris les étudiants. On a quand même plus d'un million d'étudiants qui sont des candidats au marché du travail. Donc c'est une question qui doit être portée par toute la société. C'est de cette manière qu'on peut conjuguer nos efforts, chacun de son côté, pour créer un rapport de force et apporter des changements souhaités pour la prospérité et de notre société, pour la justice sociale et pour que les citoyens algériens puissent exercer leurs droits les plus élémentaires. Donc pour débattre le sujet du code de travail, donc nous avons l'honneur de recevoir ici au siège du RAJ M. Nordine Bouderbel. Donc c'est quelqu'un qui est spécialiste dans ces questions. C'est un ancien syndicaliste, ancien dirigeant syndical. En même temps, il est spécialiste dans des questions sociales. Donc il va nous parler sur l'aspect juridique et il va aussi décortiquer le code de travail. Et aussi, nous avons l'honneur aussi de recevoir M. Nasser Djabi, sociologue et les chercheurs. Et certes, il a quitté l'université, mais quand même, il est toujours militant. Et il milite, il répond à chaque fois à la société civile, à chaque fois à les citoyens. À chaque fois qu'il y a une initiative citoyenne, il est présent. Donc, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à vous une autre fois. Comme je viens de dire, donc je vais anticiper que donc c'est périodique. Cette fois-ci, c'est le code de travail. Le week-end prochain, donc, on a décidé, donc on a fait quand même un petit programme. J'en profite l'occasion pour vous annoncer la prochaine édition. On va parler un peu sur l'international. Derrière moi, il y a ce qui s'est passé en Palestine, des grévistes de la faim, des prisonniers grévistes de la faim. Donc c'était une occasion d'aborder la question palestinienne et aussi contexte régional, pas uniquement la question palestinienne. Donc nous allons recevoir le représentant du Front populaire pour la libération de Palestine, ici à Alger, le représentant du Front démocratique pour la libération de Palestine. Il y aura aussi M. Hossein Bilaloufi, journaliste et écrivain, qui a même qui a édité un livre sur la question du Grand Moyen-Orient. Donc on va débattre ensemble la question de la Palestine et du contexte régional de la région Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Donc sans trop tarder, je vais passer la parole en premier lieu à M. Nasser Jabi pour nous parler un peu de contexte général, national, de l'application déjà du code de travail, la situation sociale du pays actuel.
شكرا على هذه الدعوة. هذه مرة ثانية أو ثالثة اللي نحضر فيها في سهرة رمضان هنا بمناسبة نقاشات حول عدة مواضيع. اليوم راح نتكلم الكلمة الأساسية راح تكون يقوم بها نور الدين، لأنه يعرف الجوانب هذه المتعلقة بالقانون أحسن مني. دونك راح يتكلم لكم أكيد على مشروع العمل، هذا المشروع العمل اللي عندنا سنوات وهو في النقاش. انا راح نتكلم حول الاطار العام، حول لو كونتيكست جينيرال ايكونوميك سوسيال، الاتجاهات الكبرى. راح نتكلم على لي غرون توندونس، الاتجاهات الكبرى اللي يعيشها عالم الشغل. عندنا عالم شغل فيه اتجاهات كبرى، سنحاول ان نتعرف عليها. ما هي هذه الاتجاهات الكبرى؟ دونك عندما نشاهد عالم الشغل في الجزائر في السنوات الاخيره، سنشاهد باننا امام ان مود دو ترافاي ا دي فيتيس ديفيرونسي، بسرعات مختلفه، بوضعيات قانونيه مختلفة، بوضع اقتصادي واجتماعي مختلف، بظروف عمل مختلفة، بعلاقات عمل مختلفة. دونك سي ليتيروجينيتي كي دومين، سادير عالم الشغل يتميز بعدم تجانس. راح نشاهد باننا امام عدة دي سيغمون دو لا كيستيون اوفريير ولا دو لا كيستيون سوسيال او ماشي. حتى السنوات الاخيرة الجزائريين كانوا يظنوا بان ليكسبيريونس سنترال اللي عرفناها الاكسبيريونس سنترال دو ترافاي اللي عرفناها في عالم الشغل في القطاع العمومي هي اللي نعرفوها، هي اللي نتكلموا عليها. الجزائريين حتى في الصحافه في بعض الاحيان، عند في الاساتذه في الجامعه عندما درسوا، مازلنا نتكلموا على هذه الاكسبيريونس اللي عشناها في السبعينات في الثمانينات تاع عالم الشغل، تاع المؤسسه العموميه، تاع القطاع اللي رب العمل فيه هي الدوله. لكن راح نكتشف بان هذا القطاع ماهوش الوحيد، وراه يتقلص اون تيرم دومبلوا. الان لو بريفي هو اللي راه دومينون، صغير هذا عالم الشغل اللي نعرفوه، اللي تسيطر، اللي رب العمل هو الدوله، واللي عرفناه بظروف عمل محدده، ظروف عمل اللي اصبحت الان اصبحت وكانها معقوله بالمقارنه مع ما شفناه من بعد. دونك لو ترافاي دون لي غران زونتربريز، لو ترافاي دون لا فونكسيون بوبليك، لو ترافاي دون لو سيكتور ديتا، للاسف ماهوش هو الدومينون، ماشي هو اللي راه يغلب، وماشي هو اللي راه فارض نفسه كمقاييس تاع قوانين العمل. سادير الخوف، وهذه ربما احد النقاط اللي ناقشوها من بعد، اسكو هذا عالم الشغل تاع القطاع العمومي للدوله رب عمثل هو اللي راح يفرض نفسه، المقاييس تاعو هي اللي راح تفرض نفسها، والا وعلى اساسها سيكتب مشروع هذا القانون العمل، ام ان راح يبنى على مقاييس اخرى ظهرت في القطاع الخاص الرسمي وفي القطاع الخاص غير رسمي. لاننا امام تروز ايطاج اون كيك سورت. عندنا القطاع العمومي الصناعي، بعد عندنا القطاع العمومي تاع الوظيفه العمومي تاع الخدمات، بعد عندنا يجي مرحله مستوى اخر اللي هو القطاع الخاص الرسمي. القطاع الخاص هذا اللي نعرفوه في الشركات الكبرى، في القطاع الصناعي، في القطاع الخاص الصناعي. ومن بعد يجي عندنا un segment اللي راه دو بلوس اون بلوس يتقوى اللي هو القطاع الخاص غير الرسمي بكل ما نقولش قانون بكل لا قانون بكل لا قانون الذي يسوده بكل ظروف العمل التي لا نعرف عليها الكثير لان حتى مؤسسه الدوله مفتشيه العمل مؤسسه الدوله تاع الرقابه ما تدخلش القطاع هذا ما تعرفش الكثير عن هذا القطاع لا تتحكم فيه ولا تعرفه ولا تضبطه دونك رانا امام ثلاث قطاعات القطاع الاول منقسم الى القطاع الصناعي والقطاع الوظيف العمومي هذا القطاع مقارنه بالقطاع الخاص ظروف العمل تاعو معقوله تضبطوا قوانين يعني عندما ندخلوا نجد انفسنا امام نسيج قانوني معروف الاشكال اللي مطروح هو هل سيستمر هذا النسيج القانوني هذا الغطاء القانوني هذا النوع تاع علاقات العمل هي السائده وعلى وما هي المقاييس التي سيعتمدها قانون الشغل الجديد هذا التجربه في السنوات الاخيره تقول بان الطبقه العامله لا تتجدد كثيرا التوظيف توقف في الكثير من القطاعات في الوظيفه العلوم يتوقف او قليل القطاع الصناعي يتوقف التوظيف راه يتم في القطاع الغير رسمي خاص وفي القطاع الرسمي بماذا يتميز سي لا توندونس سي دي دي سي لا توندونس تاع لا بريكاريتي تاع الهشاشه تاع العمل هشاشه تاع الشغل هشاشه الغطاء القانوني اللي في بعض الاحيان غير موجود وسنجد انفسنا امام قطاع خاص لرب العمل رب العمل فيه مازال يعيش في عقليه تقريبا القرن 18 التاسع عشر اللي يظن بانه لي شيلوي ما لا يرى نفسه كقطاع صناعي او خدماتي عنده دور اجتماعي وعنده قوانين لابد ان يحترمها الاشكال اللي مطروح هنا هو ان الذي يدخل عالم الشغل في السنوات الاخيره هم عمال شباب لي روتريتي كي سون ريسيكلي النساء في وضع البطاله حتى الان يقال بانه متحكم فيها في اطار 10-11% رسميا بصفه عامه لكن انا اليوم شفت التقرير هذا تاع لافامي يقول بان نسبه البطاله عند الشباب بين 26-27% اذا نحن امام بطاله عامه في حدود 10-11% اذا احترمنا اذا قبلنا بالمقاييس عندنا نسبه بطاله تاع 26-27% عند الشباب عندنا نسبه بطاله كذلك عاليه عند النساء هذا دائما في اطار المقاييس التي تعتمد للقيام لانتاج هذا النوع من الاحصائيات هذا عالم الشغل بهذه المستويات المختلفة أنتج تجربة نقابية أدي فيتاس ديفيرونسي ثاني بصدير نحن أمام نقابات أمام غطاء نقابي لعالم الشغل هذا يتميز بأنه لا يسير على نفس السرعة في بعض الأحيان الرأي العام الصحافة المجتمع الخطاب السياسي ينطلق أو يعتمد على تحليل على ما هو موجود في القطاعات اللي نقولوا بين قوسين اللي هي قطاعات راها جيده وضعيتها جيده عندما تكلموا على النقابات تكلموا على نقابات اللي راها تنشط اللي هي نقابات الوظيف العمومي نقابات الصحه نقابات التعليم في نقابات في بعض الاحيان تاع الصناعات الثقيله اللي ما زالت متواجده فيها نسبيا ما زال فيها موجود تاطير قانون نقابي سونيلغاز سوناتراك الشركات الكبرى إذن الصورة اللي راه يقدمها الخطاب الرسمي وخطبها يقدمها الإعلام هي تقريبا هذه الصورة اللي لا تمثل الأغلبية لأن كما قفت على رمضان الفقير إني با فيزيبل الذي يشتغل في ظروف هشة إني با فيزيبل لا يرى لا نشاهده لا نعرفه لا نعرف ما هو حاصل على مستوى القطاع الخاص غير الرسمي ظروف عمل ساعات عمل توقيت عمل أجور لا نعرف عليها الكثير وهي يمكن أن نضع فرضية دون أن نكون غلطين بأنها وضعية سيئة وضعية ظروف العمل وضعية علاقات العمل وضعية الأجور في القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي هي ظروف سيئة الأهم من هذا أنها من دون تغطية نقابية من دون غطاء نقابي نحن أمام نقابات أمام خارطة نقابية كما قلت مستويات عندنا نقابات نشطة في قطاع الخدمات القطاع النقابات الخاص النقابات المستقلة عندنا نقابات القوية الموجودة في القطاع العام اللي فيها تجربة نقابية قديمة واللي متواجدة نسبيا في هذه القطاعات لكن القطاع الخاص غير الرسمي القطاع الخاص الرسمي تقريبا فيه فراغ نقابي كبير جدا ومفيش دلائل مفيش مؤشرات تقول بأن هذا الغطاء النقابي سيتطور سيتحسن. لن نقابة المستقلة تستطيع القيام بعمل في هذا الاتجاه لأنها قطاع نقابات متواجدة في قطاع الخدمات، ولا النقابات الصناعية لجيتيا ولا النقابات في عامل التضامن غير موجود. لا على المستقبل القريب لا نتصور، لا يمكن تصور بأننا سنشاهد حركة نقابية قوية في القطاع الخاص، في حين أن القطاع الخاص هو الذي يسيطر الآن على التوظيف وهو الذي المؤهل أن يتطور أكثر. يعني وش معناها؟ معناها أننا سننتج طبقة عاملة، سننتج عالم شغل من دون قطاع نقابي. كل ما يتطور الوقت كل ما التغطية النقابية تقل على الضعف. لا يمكن أن نعول هذا عالم الشغل العمال، لا يمكن أن يعولوا على اليسار كقوة سياسية ضاغطة وقوة حاضرة. التيارات الوطنية اللي كانت لسنوات كانت فيها شوية مودرنيست، هذه لا توندونس ناسيوناليست، لي بارتي ناسيوناليست، اذا قلنا باللي لا فلان ولا لندي راه نشوفوا ما هو حاصل فيهم. هذه الاحزاب السياسيه تقريبا فقدت كل علاقتها مع عالم الشغل، واصبحت لا تعرف الشيء الكثير عن عالم الشغل، وتخلت حتى على النقابيين اللي كانوا عند قوه بعض الاحزاب في واحد الوقت. لا فلان كانوا عنده دي زيليمون سينديكاليست بريزا حاضرين، يعطيوا معلومات، يشجعوا، يأطروا، انتهوا نظرا للتحولات اللي يعرفها المجتمع واللي تعرفها الأحزاب الآن. هذه اللي كانت وطنية وكانت عصرية أصبحت أكثر محافظة وابتعدت عن عالم الشغل. والدليل على ذلك أن ولا حزب وطني كبير لا فلان يخدم سياسيا من أجل سيطرة على اللوجيتيا أو تقوية اللوجيتيا أو تطوير العمل النقابي أو ربط علاقات مع النقابات. عندما نتكلم أنا شخصيا مع السياسيين في أحزاب هذه كلهم يودي عندكم نقابيين وعندكم نقابة سالور دي با غروشوز، شكون هذا؟ ويتعاملوا معهم كأفراد ولا يتعاملوا مع التنظيمات النقابية كتنظيمات مناسباتية، قال بمناسبة الانتخابات، مناسبة، وحتى الأدوار هذه التي كانوا يقوم بها الآن غير مطلوبة منهم لأن ظهر رجل سياسي جديد، هذا بوشكارة، هذا اللي عنده دراهم. والأحزاب ليست في حاجة إلى نقابيين، ليست في حاجة إلى نقابات قوية تكون سند لها لأنها تدافع على اتجاهات. دونك كاين مشكل زيادة على الضعف اللي لاحظناه على مستوى العمل على عالم الشغل و سان دو موند دو ترافاي ميم. كاين لونكادرومون بوليتيك اللي ممكن نقول عليه بأن نتيجته أن عالم الشغل سيت ا موند اورفلا بوليتيك، من دون أب، يتيم من الناحية السياسية. سيكون من الصعب أن يحصل عالم الشغل في الجزائر 2017-2018 على حماية، على تأطير سياسي داعم له. النقطة ما قبل الأخيرة هي الأفكار السائدة في المجتمع، الأفكار السائدة على مستوى النخب السياسية. وزارة العمل عندما بدأت في التفكير في قانون العمل تقول بأنني اتصلت بخبراء، خبراء وطنيين وخبراء دوليين. عندما ندقق في الأمر نجد أنفسنا أمام خبراء لهما كذلك جزء من هذه السيطرة النيوليبرالية. الخبير الدولي والخبير الوطني راح يجي ويدافع على أفكار ليبرالية نيوليبرالية، راح يجي مع الانفتاح، مع الخصوصة، مع الفليكسيبيليتي، مع القضاء الزيادة في هشاشة علم الشغل، وما عندوش تصور آخر. لا نملك مدارس، لا نملك خبرة وطنية، والخبرة الدولية انقطعنا على الخبرة الدولية اللي داعمة لعالم الشغل، ونجد أنفسنا أمام خبرة لتدعم الاتجاهات. يعني عندما يعيط الوزير إلى خبير راح يقول له وش حب الوزير يكون، مش لأنه فقط انتهازي أو يخدم على روحه، لكن لأن أفكاره هذه هي. لأن عالم الشغل كذلك فقد على مستوى الجامعة، فقد على مستوى الإعلام. أنا كتبت كثير على عالم الشغل في الصحافة. لولا شوية احترام تاع رؤساء التحرير أصدقائي طلبتي في بعض الأحيان ما يجوزوليش أن أرتيكل سلوبو موساديكا. يقول لي ناصر وش بك تخلط، شكون اللي يقرأ لك؟ احنا حابين نبيعو، شكون اللي يقرأ لك حول أن بابي سور الموفمون سانديكال أو نارا؟ وعندما نتكلم مع الصحفيين ورؤساء التحرير الصحفيين بالنسبة لهم شيء عادي لأسباب كثيرة، لأنهم في الجامعة ما عرفوش عالم الشغل، ما كاش تكوين حول النقابات. المجتمع لا يعطي قيمة للعمل النقابي. الخلاصة تاعه أننا نريد أن نتقدم، نريد أن نكون نكون مجتمع عصري، نريد أن نكون اقتصاد عصري من دون نقابات، من دون نقابة، من دون حقوق. وهذا فرق كبير جدا. هذا اليوتم اللي تكلمت عليه السياسي يقابله هذا اليوتم على المستوى فكري. لا يوجد الآن في الجزائر الكثير من الناس الذين يدافعون على عالم الشغل، لا يوجد الكثير من الناس الذين يدافعون على عالم النقابة الذي لا يعرفونه. التيارات السياسية اللي راها جاية وقوية مثل التيارات الدينية لا تعرف شيئا عن عالم الشغل والنقابة. بالنسبة لها c'est une affaire de le monde du travail, le syndicalisme, c'est une affaire de communiste. عندما تبدأ تتكلم تقول لهم يا ودي كذا وكذا يقول لك خليك خلي تاع بكري وشيوعيين وخلاص وخلاص وقتهم. نشوف على مستوى النخبة السياسية تم تعيين وزير ما عندوش تجربة مهنية، لم يطلب منه تجربة مهنية، هذا موش مطلوب منه يخدم او يعرف عالم الشغل. وهذا ماهوش الوحيد، الصحافه تركز عليه يقول هاو فلان هذا ما اشتغلش. كاين كثير من المسؤولين السياسيين الذين لم يشتغلوا يوما واحدا والذين لا يعرفون شيء على عالم الشغل. هم ابناء هذا ربما تحليل دقيق تاع النخبه السياسيه في الجزائر يبين هذا، ابناء المدن الصغيره والمتوسطه جايين من الداخل، جايين من الجزائر العميقه هذه من المدن الصغيره، في الغالب ابناء تجار، ابناء ملاك في زراعيين، لا علاقه لهم بعالم الشغل. دونك كاين 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 زياده على الهشاشه، زياده على الهشاشه اللي موجوده على مستوى عالم الشغل نفسه. عندنا عمال جدد اللي راهم يدخلوا عالم سوق العمل من دون معرفه، من دون تجربه نقابيه، عندهم نظره في حاله ما اذا عندهم يعرفوا او يحبوا عندهم نظره سلبيه للعمل النقابي اعتمادا على التجربه الاحاديه اللي عشناها. صدير بالنسبه ليه النقابه هي لوجيتيه، هي الاكسبيريونس تاع لوجيتيه، دونك يل فو با لو فير الاكسبيريونس تاع لوجيتيه. يقول لك انا هذه بوليتيك، هذه خاطيتني. وحتى عندما يدخل عالم الشغل ويكتشف بانه ضروري عليه يكون النقابه ويدخل النقابه وفي حاجه الى حمايه نقابيه، ما يلقاش التضامن، لان العمل النقابي الان القيمه الاساسيه تاع العمل النقابي هو التضامن، سي لا سوليداريتي. النقابات المستقله اللي راها ناشطه ما تقدرش او ما استطعتش الدخول الى عالم الشغل وبناء جسور مع الفئات العماليه الاخرى. التجربه النقابيه القديمه تتاكل، العمال الكبار في السن اللي عندهم تجربه نقابيه راهم يغادروا عالم الشغل، و أصبح عالم الشغل في يد قوى في أحسن الأحوال لا تعرفه، في أسوأ الأحوال معادية له. نحن أمام فئات على مستوى الخبرة، على مستوى السياسي، على مستوى الأحزاب، يا أما لا تعرف كثيرا عن عالم الشغل لأنها، يا أما معادية له لأسباب أيديولوجية. أنا راح ربما الصورة اللي أعطيتها صورة متشائمة، أنا باتري أوبتيميست، لكن اعتقد بان هذا هو واقع الحال. صدير كاين تجربه نتاع النقابات المستقله لابد من تطويرها، لابد من توسيعها الى قطاعات واحده اخرى. كاين مهام تحسين وديمقراطه وتغيير وتحويل تجربه تاع النقابه تاع لوجيتيه داخل قطاع الشغل الصناعي، كيف تتطور، ما هي الشروط التي يمكن ان تتطور معها. كاين عمل على مستوى الاحزاب السياسيه لابد ان ترجع لها علاقتها مع عالم الشغل وتهتم به وتكون فيه وتدافع عنه بما فيهم البرلمان. انا شفت التجربات، خدمت شويه على التجربات تاع النقابيين الذين يلتحقون بالبرلمان. في بعض الاحيان كانوا حوالي 25 نقابي من مختلف التنظيمات النقابيه على مستوى البرلمان، ما نشوفوش الاثر تاعهم على مستوى صناعه النص القانوني. ما كاش تأثير على مستوى، راني شو كنا نلاحظوا بأن البرلمان الأخير هذا فيه شحال، فيه نقابيين حوالي 10-15 اللي طلعوا نواب. ما نشوفش في التجارب، على الأقل في التجارب السابقة ما قاموش بدورهم، قاموا كنقابيين، كناس مهتمين بعالم الشغل وعندهم لا سونسيبيليتي هذه سوسيال اللي تخليهم يدافعوا. وهذا سأختم بهذا، عندما يذهب عالم القانون هذا المشروع قانون، السؤال الكبير اللي مطروح عليه هل سيعمل على تطوير على الحد من نقاط الضعف الموجودة على مستوى عالم الشغل، أم أنه سيدعم هذه الاتجاهات الثقيلة التي تؤكد على أننا أمام عالم شغل ضعيف. يعني القانون هذا في هذا الإطار بهذا التحليل كيفاش راح يكون؟ راح يكون الخوف الكبير أنه سيدعم الهشاشة
سيدعم الهشاشة، سيدعم الفروق، سيدعم الاتجاهات الثقيلة سيئة، لن يعتمد على التجربة بين قوسين التي كنا نملكها كجزائريين، واللي هي تجربة إيجابية واللي عرفناها في القطاع الصناعي أو نعرفها في القطاع النقابات. في التجربة الأخيرة تاع آخر برلمان أنا شفت بأن كان صعب على النقابات أنها تستقبل من قبل المؤسسات البرلمانية لطرح مشاكلها. البرلمان كان مغلق في وجه النقابات التي حاولت الاتصال معه وشرح ما هو موجود على مستوى القانون، على مستوى لاروترات، على مستوى الكثير من الملفات التي طرحت. هذا يدل بأن هذا اليتم السياسي كذلك نجده في البرلمان، موجود في الأحزاب، موجود في البرلمان، موجود على مستوى الإعلام، موجود على مستوى الجامعة. الجامعة لا تكون متخصصين في الميدان الاجتماعي، في الميدان الاقتصادي، في الميدان السياسي اللي عندهم حس عمالي اللي قريبين من عالم الشغل ويعرفوا عالم الشغل ويمكن الذي يمكن أن يدافعوا على عالم الشغل. هذه هي الفكرة تاعي بصفة عامة. سنحاول أن نعرف مع نور الدين إلى فعلا هذا القانون، هذا مشروع القانون على ماذا يعتمد. هل يعتمد على نقاط القوة؟ غرامشي يقول كاين دو بوليتيك كاش تروا، يقول بأن هناك السياسة التي تعتمد على نقاط القوة الموجودة في كل مجتمع، صدير هناك سياسة تعتمد على نقاط القوة وتنطلق منها، وهناك سياسة التي تعتمد على نقاط الضعف وتعتمد عليها. نور الدين راح يجاوبنا، هل مشروع القانون هذا يعتمد على نقاط قوة القليلة أم أنه يعتمد على نقاط الضعف الكثيرة؟ شكرا.
Merci Monsieur Djabu pour cet exposé. Donc quand même, le constat il est un peu effectivement alarmant, mais c'est une réalité. Donc vous avez dit que si le monde du travail ça se dégrade de plus en plus, c'est les orphelins. Et justement, le prochain code de travail tel qu'il est l'avant-projet, est-ce qu'il est là pour soutenir la précarité, l'inégalité, où il est là vraiment, c'est il y a derrière ce droit la volonté de réformer le monde du travail et d'aller en avant. Donc la parole est à vous.
Shukran, merci. Monsieur Khair Alikoum. D'abord, je remercie l'association Rage de m'avoir fait honneur de participer à ce débat sur un sujet d'actualité qui est l'avant-projet du Code du travail. Et je vous demanderai juste d'être un peu patient. Peut-être je vais prendre un peu plus de temps que mon frère Zamili Nasser Djabi, parce que c'est pas facile de résumer l'impact d'un code de travail qui fait 661 articles. Il va toucher comme le djawanib du canon de l'amal. Et lorsque je dis comme le djawanib, c'est comme le djawanib, mais maintenant le kalima ta'hum, fait 20 dakika ou 25 dakika, parce que je vais négliger beaucoup de choses dans ce cas-là. Beaucoup de choses qui sont très importantes. Donc je vais essayer, je ne pourrai pas le faire en très très peu de temps. Donc je vous demanderai au départ d'être un peu patient, mais je vous promets que je ferai des efforts pour essayer de synthétiser. Je commencerai d'abord juste sur le plan de la forme. Aujourd'hui, on débat depuis maintenant, le projet de code de travail en Algérie. Il est en projet depuis maintenant exactement 12 ans. On est en projet. La première fois qu'on a parlé en Algérie du projet de code du travail, c'était en 2005, la tripartite, c'était en 2005. Et l'ironie de l'histoire, le paradoxe, c'est que c'était l'IJUTIA qui l'avait revendiqué la première, la tripartite. C'était l'IJUTIA qui avait demandé qu'il y ait un nouveau projet de code du travail pour essayer de l'adapter aux mutations économiques et politiques de la bled. Et en 2005, la politique qui va se calmer. Et c'est pour ça, aujourd'hui, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Jutia, et je le dis, c'est pas pour critiquer les Jutia. Moi, j'ai passé 20 ans, j'ai milité 20 ans au sein de les Jutia et je ne le regrette pas. Donc, les Jutia, j'ai beaucoup d'amis jusqu'à maintenant qui continuent à lutter au niveau de la base syndicale Taham, même si c'est le sommet des Jutia a donné son dos aux travailleurs. Mais il y a aussi beaucoup de gens au niveau de la base, au niveau des fédérations, qui essayent, avec les moyens de bord Taham, d'essayer de peser sur la balance, même si c'est très difficile. Donc les Jutia me cachent uniquement les gens qui entourent le docteur Ham. Voilà qui les Jutia va porter à mon avis, elle va réciter les tarikh concernant toutes les lois de l'Ami Oubou, ou Khassatan, avec le projet du code de travail qui va remodeler la société algérienne pour des décennies, si ce n'est pas plus. Pour des décennies, le monde du travail, le statut du travail en Algérie, il va être remodelé par ce projet du code de travail et l'impact de Tao sera très important. elle sera tenue, yani, l'histoire de Hasbha par rapport en 2005, c'est elle qui l'a introduite, mais aussi aujourd'hui, quelle est sa position par rapport à ce qui m'a dit, effectivement, le monde du travail est orphelin. Le monde des affaires ou le capital, au niveau national, qui s'imposent au niveau des lois, au niveau des orientations néolibérales de la bled, mais le monde du travail, ils sont très très peu à essayer de le défendre. Aujourd'hui, il revient à l'ordre du jour, soulevé, c'est le cadre général de le débat sur le projet du code de travail. Je dirais le cadre général, qui, où il y a une absence totale de transparence. Une absence totale de transparence et une absence de débat sur un projet qui va remodeler la société algérienne. Et pour essayer d'illustrer ça, je trouve que c'est anormal que le ministre du Travail, en octobre des fêtes, en octobre 2016, il avait déclaré que le projet du code de travail n'était pas à l'ordre du jour, qu'il n'avait même pas été étudié, et qu'il n'y a que les syndicats, l'intersyndical, et après le machakil. Il essaie de faire de la politique, il mettra en fait le machakil, parce qu'il n'y a pas de projet de code de travail et il n'a pas été étudié. Alors qu'il revient le 1er mai, ça fait un mois, le même ministre du Travail vient de déclarer, n'ayant pas peur de tomber dans la contradiction, pour dire qu'en juillet 2014, il avait remis le projet du code, l'avant-projet du code de travail à tous les partenaires du JTA, le patronat, les organisations professionnelles, et qu'il avait dit plus que ça, en août 2014, il avait installé un groupe de la tripartite chargé d'étudier l'avant-projet du code de travail. Le premier ministre, le ministre, dans toute la presse. Alors qu'il va chercher, et encore plus, l'intersyndical, quelques syndicats qui étaient mis de côté, en février ou en mars 2020, ils leur ont envoyé un projet, l'avant-projet du code de travail. Et le paradoxe, c'est que cet avant-projet porte la date il est daté de octobre 2015. Il y a une équipe en octobre 2016, il y a une équipe en 2016. Déjà, si on regarde sur la forme, l'absence de transparence, l'absence de débat, il y a déjà un qui sont dangereuses pour les travailleurs, dangereuses pour la société, parce que pourquoi essayer de faire passer des choses en catimini, mais quand je fais aller le débat. Ça c'est clair que l'impact, l'empreinte sur le code de travail lorsqu'on étudie et tous les changements, ils portent l'empreinte du privé en Algérie, l'empreinte du patronat, l'empreinte de Hasbha Bouchkara, ou le travailleur, moi je l'avais dit, si je devais résumer en une phrase, l'avant-projet du code de travail, on va passer d'un code de travail qui est protecteur des salariés, et c'est ça la raison d'être du code de travail dans le monde entier, c'était pour protéger la partie la plus faible dans le contrat de travail qui est celui du travailleur, le salarié, ou le code de travail, on va le transformer en code de travail protecteur du capital contre le salarié. C'est ça, Natija Hadkoun. Mais ce n'est pas en Algérie. Ça, c'est un mouvement qui est à l'échelle mondiale. En décembre, le projet de la loi Khomri, il y avait un représentant du patronat en France. Il avait déclaré à la télévision directement que nous sommes très contents de cette nouvelle loi parce que la loi va nous protéger contre le juge. C'est-à-dire que le code du travail en France, comme en Algérie, il va protéger les patrons contre le juge, il ne va pas protéger les travailleurs contre les patrons. Et c'est exactement la même chose qui va se dérouler en Algérie. D'autant plus que les travailleurs sont orphelins, qui m'ont dit, c'est vrai, et ce n'est pas demain la veille, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt à voir un changement, parce que le changement, le jour de l'Yagoub, moi je suis d'accord avec Malassar, le jour de l'Yagoub, il se fait au détriment des travailleurs. Le rapport de force change en défaveur des travailleurs. Aujourd'hui, avec les mesures de libéralisme, de privatisation, des investissements dans le secteur public qu'on voit, c'est le secteur public, le privé qui... On voit dans le secteur public, il n'y a pas 4%, il n'y a pas 4 ou 5%, moins de 5% des travailleurs, des entreprises du secteur privé, et là je suis très large, c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas de statistiques officielles. C'est-à-dire, si vous me demandez mon avis intime, c'est beaucoup moins. Mais pour être un peu large, il y a plus de 95% des entreprises privées ne reconnaissent pas le droit syndical, n'ont pas le comité de participation, n'ont pas de syndicat. Le syndicat aujourd'hui, dans le secteur, les syndicats autonomes ne sont tolérés que dans la fonction publique. Les syndicats autonomes ne sont même pas tolérés dans le secteur public économique. Je ne parle pas du privé. Le secteur public économique, ils ne sont pas tolérés. Alors que dans le secteur privé, ni des syndicats autonomes, ni du GTA ne sont tolérés. Le syndicat tout court n'est pas toléré dans, chez le privé. Et ce n'est pas demain que le syndicat va exister dans le privé, y compris les GTA. Pour la simple raison, je vous donne juste, pour illustrer un détail, le dernier congrès de l'UGTA qui s'est tenu en 2015, vous allez dans les statuts de l'UGTA, vous trouvez un article qui dit que l'UGTA installera des sections syndicales dans toute entreprise qui contient au moins 20 travailleurs. C'est-à-dire qu'ils ont copié ça sur la, la loi 90-14 qui dit que les Béchikoun, un délégué syndicaliste de la protection officielle, il faut qu'il y ait 20 travailleurs. L'UGTA a copié sur la loi. C'est-à-dire que toutes les entreprises, les collectifs Tahan comportent moins de 20 travailleurs, mais quand je fais la section syndicale. Et ça, c'est dans les statuts. C'est-à-dire que l'UGTA ne pourra pas créer ça. Et lorsqu'on sait que 98,5% du nombre d'entreprises en Algérie, c'est des entreprises qui ont entre 0 et 9 travailleurs, c'est-à-dire moins de 9 travailleurs, 98,5%. Donc, moins de 9 travailleurs. Si on devait ajouter entre 9 et 20 travailleurs, c'est-à-dire le nombre d'entreprises, donc moins de 20 travailleurs, elle dépasse les 99%. C'est-à-dire que l'UGTA, dans son programme, dans ses statuts, elle dit que non, je ne vais pas toucher 99% des entreprises du privé, ça ne me concerne pas. Il n'y aura pas de section syndicale FIHOM. Donc vous voyez que ce n'est pas demain qu'on va pouvoir avoir un syndicat qui va s'imposer dans le secteur privé. Maintenant, si on devait pour voir l'impact d'AHOM, c'est-à-dire le coût du travail, qu'est-ce qui va changer dans les relations sociales, dans le statut social du travailleur? Pour cela, moi, je voudrais juste rappeler. Effectivement, comme a dit Nasser, rahin yarjouna li kan qbel naqaba, moi je dirais au contraire, rahin yarjouna le waqt ma qabl l'industrialisation, qbel ma ykhlqou naqabat fi l'alam, rahin yarjouna le waqt hadak, rahin yarjouna le waqt li yabis ce qu'on appelait les ateliers de la misère. Et c'est important, balak rana hidiha wahda bwahda, mais on va y aller, et chez nous, balak on va y aller beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Had les ateliers de la misère, les khalqou, d'abord khalqou en Angleterre, au 19e siècle, c'est-à-dire au 19e siècle, khalqou les ateliers de la misère, c'est quoi? Ils jibou des travailleurs, ils hattoum dans des ateliers, mais en domch, malhimaya, le nombre d'heures, les khadmou, ils khadmou, ils mais en domch, aucune mesure de protection, mais en domch, le SNMG, mais en domch, des conditions de travail terribles, c'est la misère terrible, et les gens vivaient d'ailleurs au Bokhtadak, la moyenne d'âge d'un ouvrier, l'espérance de vie, à la naissance d'un ouvrier, était de 43 ans. 43 ans. L'ouvrier, quand on a eu le temps, il n'y a pas de temps. On a eu deux choses. Les ateliers de la misère se sont développés à New York, se sont développés en Australie, se sont développés en Europe partout. Ils se sont développés. Ensuite, il y a eu les immigrés. Par exemple, en Angleterre, il y a eu les Irlandais. C'était les immigrés irlandais, les ont les ateliers de la misère, et c'est surtout dans le textile. Ils ont fait toutes les grandes marques de textile, ils ont fait les c'est-à-dire c'était l'esclavage pour les travailleurs. Mais avec le développement dans les luttes dans les travailleurs qu'il y a eu en Europe et en Amérique, que ce soit au niveau des 8 heures de travail, ou au niveau du droit de congé, au niveau du SNMG, donc les économies qu'ils diront patronat, ce n'était pas possible parce que les travailleurs ont imposé une réglementation du travail, et c'est là où le code du travail est le tarikh. أول مرة في التاريخ داروا ان كود دو ترافاي اللي يحمي العمال فيما يخص لي كونديسيون ترافاي تاعهم فيما يخص لو سالير مينيموم فيما يخص لو اس ان ام جي فيما يخص دروا سينديكال دو سو ديفوندر ايتترا. Si vous prenez l'Amérique, c'est en 1911, c'était à New York. Les ateliers de la misère existaient à New York. Puis New York, il y a eu un grand, il y avait un événement très important, il sera en 1911, il sera un événement clair. Il y a eu plus de 146 morts, dont 129 femmes, dans une usine de textile de 10 étages. Il y avait un incendie le 25 mars 1911, avant l'heure de la fermeture, un incendie a ravagé les locaux de la fabrique de chemisiers, c'est moi, Triangle, à New York. 146 morts, dont 129 femmes. La législation locale est insuffisante. Les échelles des pompiers n'atteignaient même pas le dernier étage. C'est-à-dire, il y avait 10 étages, même qu'il y avait les pompiers, 7e étage, ils ne pouvaient même pas dépasser le 7e étage pour vous montrer les conditions de travail des travailleurs. Leur lance à incendie ne portait pas assez haut parce que le débit était faible. L'empilement des matériaux inflammables avait alimenté l'incendie. L'escalier de secours extérieur n'avait pas résisté à la chaleur d'herbe, c'est-à-dire l'escalier de secours d'herbe. Il n'y avait pas d'alarme audible, etc. Et les portes étaient fermées. Suite à ça, il y a eu cet incendie. Il n'y a eu pas, même la justice, le droit de travail n'était pas pour les travailleurs. C'était pas tout le monde qui avait reçu une indemnisation. Il y avait très peu de travailleurs qui avaient reçu une indemnisation. Mais quelle indemnisation? Il avait touché 75 dollars pour la famille Taoulimet. Une indemnisation. Alors que le patron a pris 60 000 dollars d'indemnisation puisqu'il n'a déclaré à l'assurance, aux assurances. $60,000 en plus, leader home. Et suite à ça, il y a eu des très grands mouvements de travailleurs en New York, justement aux États-Unis. 400 000 travailleurs avaient marché, et c'est à partir de là qu'on a commencé à faire des législations, une législation de protection. Rien qu'en New York, plus de 60 lois de protection justement des travailleurs, c'est les conditions de travail, suite à cet incident qui était terrible. Suite à ça, pourquoi je vous raconte tout ça quand même, c'est suite à ça, les mêmes problèmes qu'il y a en Europe, qu'il y a en Amérique, suite à ça, le capital a découvert qu'il ne pouvait plus continuer chez lui, en Amérique, dans les pays développés de cette période d'industrialisation, comme les économies terres. Et c'est là où ils ont décidé de changer le fusil d'épaule, car au lieu de le faire ici, on va les faire dans les pays du tiers-monde. On va produire nos vêtements, on va produire nos textiles, on va tout produire dans les pays du tiers-monde. Et c'est là où ils ont commencé les délocalisations, c'est-à-dire qu'ils vont produire à très très bas prix dans les pays du tiers-monde, qui maintenant, parce que les multinationales, elles font, il y en a les plus grands bénéficiaires. Et c'est comme ça que, là, comme un exemple, un pays, mais ça, on peut le généraliser, au Bangladesh, le textile, un secteur clé de l'économie, le salaire des employés était de $1 pratiquement par jour, $38 par mois. En 2013, hein, avec un chiffre d'affaires de 18 milliards d'euros, l'industrie du textile est la deuxième au monde derrière la Chine. Elle emploie 4 millions de personnes, en majorité des femmes, dans 4000 usines. Pilier de l'économie, le secteur représente 80% des exportations du pays. Et ça représentait 15% du PIB. C'est 15% du PIB. Et tout ça était destiné pour l'exportation. L'Europe représentait à elle seule 60% des exportations et les États-Unis le un quart. Alors imaginez, 85% entre l'Europe et les États-Unis. Si vous ajoutez la Corée et le Japon à côté, donc vous imaginez que tout ce qu'on faisait pour le Bangladesh, on le faisait pour que les citoyens du monde développé puissent se vêtir. À très bas prix. Et comment ça à très bas prix? Une étude internationale avait montré, si je vous prends un exemple, t'as Nike, le soulier Nike, t'as sport, le prix de fabrication d'une paire de souliers Nike en 1995, les ateliers de la misère de Nike ont gardé 68,9% de la marge. C'est-à-dire que lorsqu'on dit un soulier Nike, lorsqu'il est produit, 31,1%, c'est tous les coûts, y compris les coûts d'investissement, matériel, entretien, investissement, plus les salaires, et 69% c'est-à-dire dans les caisses de la multinationale. Et vous pouvez ça multiplier par 100, par 1000, par 2000. Voilà le monde que fait Tibna, à la Khadamin. Voilà le monde que fait Tibna, une fois que les pays développés se sont dotés de codes de travail puissants, qui protègent les travailleurs, ils se sont déplacés vers des pays du tiers-monde, dont je vous donne l'exemple de Bangladesh. Bangladesh, je vous donne deux ou trois incidents pour vous dire, pourquoi je vous raconte ça, pour vous dire, mais quand on laisse les choses passer, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quelle sera la situation des travailleurs en Algérie. L'usine Hadi Tazran, dans la banlieue de Dakar, fabriquait des vêtements pour plusieurs sociétés occidentales. Lorsque je dis plusieurs sociétés occidentales, des dizaines de sociétés, maintenant Benetton, Hado, maintenant les grands titres des vêtements, comme l'américain Walmart, les magasiniers rwandais CEA et entre et Nice, une marque détenue par le rappeur américain Sean Combs. En novembre 2012, un incendie avait causé la mort de 112 personnes et mis en relief les conditions de travail déplorables dans les ateliers du pays. C'est-à-dire que les conditions les canaux de New York ou le Kenya au niveau des pays du tiers-monde qui met le Bangladesh 112 morts, mais tout a dit en 2012. Mais plus grave, 6 mois après, en 2013, en avril 2013, le résultat de plus d'un an d'enquête a permis de recueillir de nombreux témoignages. Des ouvriers ont par exemple expliqué qu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas quitter leur poste et que les portes avaient été fermées dès le début de l'incendie. Les portes, il était interdit qu'ils quittent l'usine. Parce que pour le patron, il pouvait. Le 24 avril 2013, un autre bâtiment de 9 étages abritant 5 ateliers de confection textile s'est effondré à Savar, près de Dhaka, la capitale de Bangladesh. Et cette fois-ci, c'est 1138. Et ça, c'est une affaire, je pense qu'elle est très connue, l'affaire Hadi. Jusqu'à maintenant, on continue à en parler, l'Europe partout. Au niveau de l'OIT, au niveau du monde entier, on parle de cet incident, justement, à Bangladesh, le Rana Plaza, le Rana Plaza Hadi. Il y avait 1138 ouvriers qui sont morts, justement, dans l'effondrement de l'Istadri Hadouk, et 2000 autres blessés, et 180 ont disparu à ce jour-là. 1138 personnes ont perdu la vie, 2000 blessés et 180 ont disparu à ce jour. C'est le plus meurtrier à ce jour dans l'industrie textile. Cette tragédie est symptomatique des conditions de travail et de sécurité affligeantes de l'industrie des vêtements et de la chaussure partout dans le monde. Et je termine les exemples d'Adouana, dans le vif du sujet, pour dire que la connivence qu'il y a entre le capital international et ses répercussions qu'il peut avoir, y compris à nos patrons dans les différents pays du tiers-monde. En France, en janvier 2017, suite justement à cet accident, il y a eu le Parlement français qui avait voté une loi, une loi de la vigilance, qui devait imposer à toutes les sociétés françaises multinationales qui travaillaient à l'étranger, la loi sur la vigilance, c'est-à-dire qu'elle devait imposer aux sous-traitants et aux fournisseurs tawaham, mais si qu'on a des plans de sécurité, ils n'acceptaient pas les enfants qui travaillaient, les femmes qui travaillaient, ils n'acceptaient pas les conditions déplorables de travail tawaham. Le Parlement français avait voté cette loi-là, il avait prévu des sanctions entre 10 millions de dollars en cas d'infraction, et s'il y a une catastrophe qui sera qui mérite à Plaza, avec l'infraction, la monte tout seul jusqu'à 30 millions de dollars. Janvier les fêtes. Malheureusement, ça fait même pas 20 jours, ça fait un mois, le Conseil constitutionnel français vient de revoir la loi, il l'a censurée, la loi, n'a la sanction pénale. Il n'y aura plus de procès. C'est la loi, mais c'est une loi qui n'aura pas de sanction. Et qu'est-ce que vaut une loi sans qu'il y ait une sanction? Et voilà comment le patronat voudrait bien, malgré l'influence lycaénienne, voudrait bien que dans tous les pays du tiers-monde, les multinationales, il y a une main-d'œuvre à très bon marché, où il y a les conditions de sécurité, où les gens sont vraiment amis qui vivent dans un danger permanent au détriment même de leur vie. Et c'est pour ça que chez nous, en Algérie, pourquoi je dis ça quand même, j'arrive chez nous, l'un des arguments dans le patronat, l'un des arguments des décideurs, ils disent qu'aujourd'hui, on ne peut pas attirer les IDE, les investissements directs étrangers, on ne peut pas attirer les investisseurs et on est obligé de mettre en place un code de travail qui assure la flexibilité totale. Les investisseurs. Et lorsque vous allez voir qu'est-ce qu'ils appellent par précarité, vous allez trouver rien d'autre qu'ils nous veulent nous imposer les mêmes conditions de travail en Algérie qui existent aujourd'hui, comme en Bangladesh. Ailleurs. Pourtant, en Algérie, si vous prenez toutes les études de l'ISRAO en Algérie, les 15-20 dernières années, aucune étude n'a mis en évidence que le code de travail en Algérie constituait, qui m'a dit, un obstacle au développement de l'entreprise privée en Algérie. Capitalistes. Ils parlent de flexibilité, etc. Nous avons eu des études de la Banque mondiale en 2004-2006. Nous avons eu une étude de l'FMI sur l'Algérie, une étude du FMI en 2007. Nous avons eu un rapport de le FIMIS, qui est un forum de partenariat euro-méditerranéen et qui a fait une étude sur l'Algérie sur le rapport de 2004-2005. Je voulais un passage bacalé, justement, sur le code de travail en Algérie. Qu'est-ce qu'il dit, un rapport de le FIMIS? Il dit que la réglementation du travail est une contrainte importante en Tunisie pour 43% des entreprises. Et au Maroc, pour 28% des entreprises. Mais en Algérie, elle n'est pas perçue comme une contrainte que par 12% des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a 12% des entreprises du privé en Algérie qui, suite à cette enquête-là, considèrent la réglementation de travail en Algérie comme une contrainte pour eux. Et pourquoi va-t-on s'attaquer à ce code de travail? Ces proportions, ce pourcentage a été confirmé par une étude de l'ONS qui a été faite en 2011. Si vous allez à Internet, site à l'ONS, vous allez trouver une enquête d'Eroha en 2011, le recensement économique en Algérie. D'ailleurs, c'est la seule, la première et la dernière. Elle figure toujours sur le site Internet à l'ONS. Dans cette étude, à l'entreprise algérienne, Qu'est-ce qu'elle dit l'étude? Rachel Sarsel, 660 000, je dis bien 660 000 entrepreneurs, ou qu'elle a appris le machin qu'il te voit, comme les contraintes que vous voyez, il y que vous estimez qui se posent pour le développement de l'entreprise, pour la politique contre le chômage. La même chose. Les entrepreneurs ont répondu sur tous les aspects, sauf pour la réglementation de travail, où seulement 14% des interviewés, 14% des enquêtés ont dit que la réglementation de travail, le code de travail, ils ont posé des problèmes de tout genre, c'est-à-dire de financement, des problèmes de fiscaux, des problèmes d'électricité, etc. Mais pas de code de travail. La Banque mondiale, en 2004, en Algérie, elle a trouvé la même chose. 82%, ou 80% des enquêtés avaient répondu que c'était la corruption en Algérie qui empêchait l'entreprise de se développer. Le premier problème, c'était la corruption, suivi par l'accès à l'électricité ou l'accès au financement. Mais le code de travail, c'était 12% aussi. Ça, c'était la Banque mondiale. Donc, si on examine tout ça, qu'est-ce qui peut justifier? En Algérie, on va changer le code de travail. Rien, absolument rien, si on ne veut pas installer en Algérie, justement, des conditions qui existent aujourd'hui au Bangladesh, avec les conséquences du code de travail. D'ailleurs, si vous prenez le rapport à Doing Business, qui est un organisme de la Banque mondiale, et qui fait des classements sur le climat des affaires. Chaque année, on me dit c'est-à-dire le patron, les néo-libéraux, que l'âme, il traîne, on chauffe l'Algérie, on a 160e classé dans le monde, il faut changer les lois, il faut changer le code du travail, ou il traîne au B. Et justement, dans les rapports à Doing Business, ils classent le Bangladesh, elle est mieux classée que l'Algérie. Ils nous disent, regardez, le Bangladesh est mieux classé que chez vous, il attire des investisseurs, donc il faut faire comme le Bangladesh. Plus que ça, le Pakistan, l'Afghanistan, il est classé mieux que l'Algérie. L'Arabie Saoudite, qui ne reconnaît même pas le droit syndical, qui est dans l'esclavage à leur niveau. Le Qatar, leader de parrainage Taham avec l'histoire Taham, l'esclavage, yani pour les travailleurs Taham, on a vu dans l'histoire de la Coupe du Monde 2022, ils sont classés largement mieux que l'Algérie. Donc, s'il y a une raison, yani qu'ils veulent, yani qui est vraiment objectivement palpable, c'est bien justement la précarité ou la flexibilité qu'ils veulent installer en Algérie, parce qu'ils nous disent que voilà, vous devez avoir des coûts moins chers aujourd'hui et vous devez être concurrentiel mais des pays qui mettent le Bangladesh si vous voulez que yani vous avancez, yani si vous voulez que les investisseurs y jouent. Donc l'enjeu dans le code de travail en Algérie, il se situe à ce niveau-là. L'enjeu en Algérie, c'est que l'Algérie va devenir, parce que même lorsqu'on dit le patronat, il faut que le code de travail il me dérange. En quoi il le dérange? Je parle du patronat algérien. Le patronat algérien, comme je vous l'ai dit, 99% des entreprises du privé n'ont pas de syndicat. Ou est-ce que vous avez vu jusqu'à maintenant un seul patronat dans le secteur privé, un seul patron en Algérie, qui a eu des problèmes avec la justice en concernant les compressions d'effectifs? Ou là, est-ce qu'il y a eu un seul patron qui avait un problème à la justice parce qu'il a appliqué il a recouru au CDD en violant la loi, de façon illégale? Est-ce que la loi en Algérie, ce qu'on appelle un code de travail, une loi, ce qu'on appelle une loi ineffective, c'est-à-dire une loi, mais elle n'est pas caractérisée par son effectivité, c'est-à-dire, moi je me tape. 95% des entreprises privées, madame syndicat, madame comité de participation. Donc, en quoi le code de travail, les secteurs privés n'appliquent même pas le SNMG. Lorsqu'ils veulent licencier, ils s'en foutent de la loi. Il n'y a pas de négociation collective, il n'y a pas de syndicat. Donc, en quoi la loi actuelle va le gêner si c'est vraiment ça le cas? Donc, non seulement nous avons une loi depuis 90 qui présente toute la flexibilité de ma'aïr tawaham, mais plus grave chez nous, en Algérie, plus que dans tous les pays, la loi elle-même, qui est flexible, qui est anti-travailleur, elle n'est pas appliquée et les privés aujourd'hui, les patrons font ce qu'ils veulent dans le domaine, dans le monde du travail, et personne ne les inquiète. Maintenant, si vous me dites, c'est-à-dire avec tout ça, dans le changement lui-même, si on examine maintenant le corps, le contenu de l'avant-projet du code de travail, et on va dire qu'est-ce qui va changer dans le code de travail. Moi, je dirais que tout va changer dans le code de travail. Dans tous ces segments, il n'y a pas un seul segment qui sera épargné. Ils vont appliquer ce qu'on appelle les trois flexibilités des climats. Les néolibéraux dans le monde, lorsque vous avez la flexibilité, et qu'ils l'ont abandonné, même chez eux, parce qu'aujourd'hui, même en Europe, les gens ont la flexibilité, maintenant, ils reviennent à des termes, ils parlent de flexi-sécurité. Mais il parle de flexi-sécurité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va assurer une flexibilité pour l'entreprise, Mais les travailleurs ne sont pas, on va leur assurer des amortisseurs sociaux à travers l'allocation de chômage, à travers le revenu universel, à travers une protection sociale, de façon à assurer au travail une formation, une reconversion, de façon à ce que les travailleurs et leurs familles aient toujours un revenu, et en permettant au patron à côté de licencier. Parce qu'il faut qu'il y ait un mouvement dans le monde du travail. Donc, il y a la flexibilité sécurité qu'ils veulent développer chez eux. Nous, en Algérie, lorsqu'il est licencié, il a une location chômage, il a un revenu. En Algérie, en 2017, il y a la flexibilité. Alors qu'elle est déjà appliquée. En Algérie, il faut savoir que plus de 50%, je dis bien plus de 50% des contrats de travail sont en CDD, sont temporaires en Algérie. Et ça, c'est les chiffres de l'ONS, ce n'est pas moi qui le donne. Plus de 50% si on les prend globalement. Si on les prend dans le secteur privé, 71% des contrats de travail dans le secteur privé sont temporaires. Mais il y a un autre indicateur, il y a une autre frange qui peut nous renseigner sur le futur. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, le futur, si on prend la tranche d'âge de 16 à 25 ans, c'est-à-dire les jeunes, aujourd'hui travailleurs, de 16 à 25 ans, qui sont âgés, de 16 à 25 ans, et qui travaillent chez le secteur privé, et je ne parle pas de l'informel, là, je parle du secteur privé formel, c'est-à-dire le secteur privé qui sont des entreprises déclarées, aux activités qui sont déclarées. Dans le secteur privé formel, si on prend la tranche d'âge des travailleurs âgés de 16 à 25 ans, 84% des contrats de travail sont temporaires. 8,4 sur 2 sont temporaires. Ils nous disent, certains, ou certains experts au profit du libéralisme, néolibéraux, ils disent que c'est normal, si vous allez en Europe, vous allez trouver que maintenant tout le monde recrute en CDD. C'est une demi-vérité, et une demi-vérité, ça veut dire que c'est un demi-mensonge. Parce que s'il est vrai qu'en Europe aujourd'hui, si vous prenez l'année passée ou avant l'année passée, c'est vrai, en France par exemple, si vous prenez sur une année, vous allez trouver que 90% dans le secteur concurrentiel, je ne parle pas de la fonction publique, je parle du secteur privé concurrentiel, 90% des gens qui sont recrutés pour une année, ils sont recrutés en temporaire. Mais lorsqu'on rentre dans les détails, dans l'évolution de Taouham, on va remarquer qu'au bout d'une année, 40% sont permanents. Au bout de la deuxième année, première année, 30% sont permanents. Deuxième année, 40% sont permanents. Et au bout de la troisième année, 60% sont permanents. Donc il y a une dynamique déjà que même les collègues temporaires, au bout de trois années, 60% des travailleurs se retrouvent permanents. Chose qui n'existe pas, en plus de l'amortisseur social, parce qu'ils ont un revenu, ils ont l'amortisseur, le truc de chômage, etc. L'allocation de chômage, etc. Donc, on a déjà, la situation, elle est déjà très, déjà précaire pour nos travailleurs. Mais elle va devenir encore plus précaire, parce que non seulement les CDD, ils vont être maintenus, mais aujourd'hui, la loi va leur donner la possibilité de signer jusqu'à 4 contrats. C'est-à-dire, vous les renouveler, ils peuvent être renouvelés jusqu'à 3 reprises. C'est-à-dire 3 reprises renouvelées, ça veut dire qu'ils peuvent faire 4 contrats. Mais sans limiter, comme ils le font dans les autres pays, sans le limiter à la durée d'un contrat, ou sans limiter la durée globale dans les contrats cumulés. C'est-à-dire ils ne les ont pas limités. Donc aujourd'hui, si on fait des contrats à 2-3 années, par 4, ça veut dire qu'on peut faire des contrats de 12 ans. De 12 ans, mais je dirais plus. Parce que chez nous, ils parlent de contrats successifs sans définir qu'est-ce que c'est successif. Qu'est-ce que c'est deux contrats successifs. حنا عندنا في الجزائر يروح يدي يقول لك نهار ولي روح سمانه ولي pour lui c'est pas de contrat successif il a arrêté عاود بلا به donc il peut le reprendre encore une autre fois pour 12 années. Ça veut dire qu'un travailleur peut aujourd'hui rester 32 ans يخدم عند le même employeur dans un poste qui peut être permanent mais هو عنده un CDD تاعو et طول حياته. Et pour votre information, si vous prenez par exemple en France ou dans les pays européens, la notion de contrat successif, elle est bien précise. D'abord, la durée, elle est limitée, entre une année et trois années, dans tous les pays. Maximum, dans tous les contrats réunis, c'est entre une et trois années, pas plus. Vous ne pouvez pas aller à 12 années ou à l'autre. Mais plus que ça, la notion de successivité, de succession, de contrat successif, elle est bien précisée. Il faut dire qu'entre deux contrats, un contrat, et entre un premier contrat et un deuxième contrat, il faudrait qu'il y ait au moins le un tiers de la durée des deux contrats réunis soit respecté. C'est-à-dire que si vous faites des contrats à 2 ans et 2 ans, c'est-à-dire qu'il faut nous espacer 24 divisé par 3 de 8 mois. C'est-à-dire qu'il faut que les deux contrats 8 mois, sinon ce n'est pas des contrats successifs. مي بلوس كو سا ما يحسبوش تاع لو ترافايور راح ولاو يحسبوا تاعو يحسبوا تاع لو بوست دو ترافاي ستادير ميم سي ريكروت ناصر وما يحبسوه ما يجيبوني انا وما يعاودوا يجيبوا ناصر بعدي انا ما يحسبوش تاعي واحد ولا كم يحسبوا لو بوست دو ترافاي كون اوكيبي كي كومون اي سي لو بوست دو ترافاي فيه 15 جور سي لو بوست دو ترافاي هذاك لا ديور دو ترافاي فيها 15 جور سي لو بوست فيه 15 جور سي 50% ديري ستادير كو سي 15 جور ابري يدوا ريسبكتي 8 جور نتاعو حنا هاد لي نونسيون نو سون با ريسبكتي ترويزيامون un CDD, vous prenez au Maroc, oui c'est précaire, le Maroc a les mêmes conditions que nous, c'est, peut-être c'est pire. Mais le Maroc par exemple, si vous prenez des périodes d'essai, les CDD, la période d'essai ne doit pas dépasser en aucun cas un mois, quelle que soit la qualification terrain, un mois maximum. Nous avons la période d'essai, un CDI ou un CDD, la loi, le projet d'Hadan, mais qu'est-ce qu'il y a de différence? Je crois que ça peut aller jusqu'à 6 mois, et pour les postes de haute qualification, il y aura une année. 6 mois de travail, y compris pour un ouvrier. Le Maroc, c'est un mois. En France, c'est un mois. On a dit 6 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut recruter quelqu'un pour 8 mois, ou il dit 6 mois en période d'essai. Et qu'est-ce que ça veut dire période d'essai? Sa période d'essai, ça veut dire qu'il a un statut de salarié sans aucune protection, sans aucun droit. Il ne peut pas à n'importe quel moment et personne ne peut rien faire pour lui. C'est l'histoire de la période d'essai. Mais plus grave encore, lorsque un CDD il est licencié, même la loi elle le dit, même pour sans raison, même si de façon abusive, même sans respect de la procédure disciplinaire, sans respect de la loi, dans tous les cas de figure, lorsqu'un CDD est licencié, l'indemnisation tao, l'irahedoka pour la loi algérienne, elle est de 6 mois minimum, et qu'elle ne peut pas être supérieure à la durée qu'il lui reste le contrat tao. C'est-à-dire que si j'ai un contrat de 12 mois, il a licencié en effet le 11e mois, quelle que soit la raison, j'aurai pas plus de 1 mois d'indemnisation. Et le comble des combles, c'est que le CDD aujourd'hui, il y a un CDD, aujourd'hui, il peut aller à la cour, il peut aller à la justice s'il estime que son contrat devait être CDI ou modéré non CDD, pour aller demander un reclassement de CDD et dire en CDI. Là, la loi actuelle, qu'il y a. Mais le prochain code du travail, un CDD, pour pouvoir demander au juge le reclassement de son contrat en CDI, il faudrait qu'il saisisse le juge pendant la durée de travail, la durée du contrat. Si le contrat, la durée est en place, il n'aura plus le droit d'aller au juge. Voilà l'insan qui a un CDD qui peut aller chez le patron, l'employeur, alors qu'il sait que le contrat est en place. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus personne, aucun membre du CDD, et ils sont aujourd'hui plus de 50% des travailleurs ne peuvent aller saisir la justice. Parce qu'ils ont deux choix. Imaginez un travailleur qui a un CDD à 2 années. Il est au 22e mois. S'il va au juge, s'il reste au bout des 24 mois, il n'a pas le droit de saisir le juge. S'il saisit le juge avant les 24 mois, ça veut dire que même le juge ne pourra rien faire pour lui parce qu'il n'aura droit qu'à 2 mois. S'il est au 22e mois, il n'aura une indemnité que de 2 mois. Ça veut dire que, quelle que soit la situation, le patron, il est dans toute sa légalité, son droit de le licencier sans aucune indemnité. Et plus que ça, il y a beaucoup d'autres points, mais je les saute, parce qu'en plus de CDD, on va introduire une notion de travail temporaire qui est plus précaire encore que le CDD. Le CDD qui est le contrat de travail à durée déterminée, aujourd'hui on va introduire le travail de sous-traitance. Le travail de sous-traitance ou le travail intérimaire. Le travail de sous-traitance ou le travail intérimaire, c'est des travaux qui sont des contrats de travail, qui ne font aucune protection et qu'ils peuvent vous utiliser dans des situations très difficiles sans aucune protection. Ils peuvent vous appeler à l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise Ils peuvent vous appeler à l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de vous convoquer, mais que je ne vais pas faire de l'aise. Il y a même en Europe, dans les pays capitalistes, mais ces dispositions, elles sont vraiment protégés, c'est-à-dire un dispositif de protection. Ils ne peuvent pas être affectés à des travaux difficiles, dangereux, ils ne peuvent pas être affectés pour remplacer des travailleurs grévistes, ils ne peuvent pas être... Il y a un certain nombre de conditions pour encadrer ce type de travail. Aujourd'hui, en Algérie, ils vont être introduits sans aucune disposition qui puisse encadrer ce type de contrat. Donc, et on a, pour finir sur le CDD, et on a ajouté, jusqu'à maintenant, la loi, l'article 12 et 14, c'est la loi 90-11 amendée, elle définit dans quel cas on peut recourir au CDD. C'est-à-dire dans les cas de travail saisonnier, intermittent, de travailleurs qui sont limités dans le temps, etc. La loi, elle précise ça. Si vous n'êtes pas là, dans ce cas-là, vous pouvez aller demander le classement TAC. Dans le nouveau code de travail, on a ajouté deux dispositions Oui, même si la nature du travail n'est pas temporaire, il peut recourir au CDD. Il faut que lorsque le patron, lorsque l'employeur va introduire un nouveau produit. Qu'est-ce que c'est un nouveau produit? Une nouvelle chaîne. Coca-Cola, il a dit Mirinda, la couleur, il se met un nouveau produit. C'est-à-dire il peut changer. Et dans ce cas-là, il peut recourir au CDD sans aucun problème et personne ne peut le faire. Ou les collègues pour effectuer des réparations. Qu'est-ce que c'est effectuer des réparations? Vous allez à la CMBI, lorsqu'on fait faire des réparations, est-ce que ce n'est pas un travail qui est permanent, le fait qu'on parle de réparation? Alors qu'ailleurs, Florent, parce qu'il parle de réparation, il parle de réparation dans le cadre du service public. C'est-à-dire qu'il y a un agent d'Arsenal Gaz qui va intervenir et réparer une panne d'électricité ou l'intérieur des eaux, qui va réparer une conduite qui éclate. Là, c'est des réparations qui demandent une urgence. Mais le code de travail, derrière tout court, pour les travaux de réparation, tout court. Rien concernant les CDD. La même chose si on voit du côté du licenciement. Aujourd'hui, on va permettre aux employeurs de licencier beaucoup plus facilement que ce qui existe aujourd'hui. D'ailleurs, beaucoup plus facilement. L'employeur peut licencier comme il veut. Je dis bien comme il veut. Et au maximum, il risque d'avoir 6 mois de salaire à payer. C'est-à-dire, dans le pire des cas, 6 mois de salaire à payer. Il peut licencier les syndicalistes, les travailleurs, et au pire de cas, il n'aura que 6 mois de salaire à payer. Et dans beaucoup d'autres cas, il n'aura rien à payer. Dans beaucoup d'autres cas, il n'aura rien à payer. On a introduit, par exemple, des motifs de licenciement qui ne tiennent pas la route. On parle aujourd'hui, par exemple, d'un licenciement licenciement pour inaptitude. Et inaptitude, aujourd'hui, dans le prochain code du travail, si vous êtes inapte à un poste de travail, il peut vous licencier. Or, l'inaptitude, ça n'a jamais existé dans le code de travail par rapport au système de la sécurité sociale. L'inaptitude, elle est déclarée par un médecin de travail. Et l'inaptitude, elle est déclarée par un médecin de travail, soit par un poste de travail, soit à tous les postes. Vous pouvez être inapte à un poste si on vous fait une reconversion. Vous pouvez faire le travail, comme vous pouvez être inapte pour tous les postes. Donc l'inaptitude, elle est relative. Et encore, elle peut ne pas être permanente. Je peux être inapte à un poste, mais mon inaptitude n'est pas permanente. Et dans les sociétés ukrainiennes, dans les sociétés occidentales qui ont introduit cette notion-là, c'est vrai que l'inaptitude derrière, mais elle est bien réglementée. Mais si derrière, plus que ça, si l'inaptitude découle d'une maladie professionnelle, ou si elle découle d'un accident de travail, le travailleur a le droit de prendre une indemnité de licenciement qui est le double de l'indemnité d'un licenciement légal, l'Ukraine, c'est-à-dire les négociations avec eux. Je dis bien le double, c'est-à-dire si l'Ukraine a 15 mois de salaire, il aura droit à 30 mois de salaire, parce que son inaptitude, elle découle de ses conditions de travail. En Algérie, il n'y aura pas de tout ça. Si vous êtes inapte, si le médecin de travail, le médecin de travail, il dépend de qui? Il dépend de l'employeur. Si le médecin de travail vous déclarer inapte, ce serait une cause de licenciement, quelle que soit la raison, il peut mettre fin. C'est un cas de cessation de la raison de travail. Et même dans le cas où vous pouvez aller au tribunal et vous avez raison, parce que le juge va déclarer, va trouver vous n'aviez pas de raison. C'est-à-dire que le licenciement s'est fait sans raison, le juge n'a plus le droit de prononcer sa réintégration. Il y a le patron, il y a le travailleur, il y a le travailleur, bon, tu as dit que tu as dit que tu le patron, il y a ce que tu as. Il suffit que le patron, il y a le marjouch, et le juge n'a pas de choix que tu as dit. Donnez-lui 6 mois de salaire, dans le meilleur des cas. Donnez-lui 6 mois de salaire, mais le juge ne pourra plus, enregistrer la volonté des employeurs et on ne pourra plus imposer à l'employeur de réintégrer un travailleur, même licencié abusivement. Ils ne pourront plus le faire. D'ailleurs, l'indemnité, aujourd'hui, la justice, c'est ce qu'on appelle la ramette Hadidia, la strain journalière, c'est-à-dire s'il y a un jugement et que l'employeur refuse de l'appliquer, le juge peut déclarer la strain journalière, c'est-à-dire qu'il y aura une amende à payer quotidiennement, journalièrement, jusqu'à ce que l'employeur applique la décision. L'amende aujourd'hui, elle est égale à 25% du SNMG, c'est-à-dire par jour. Chaque jour, aujourd'hui, c'est 4 500 dinars. Eh bien, dans le futur HEDA, dans le futur code de travail, dans le futur, dans l'avant-projet, la strain journalière, elle est éliminée pour les cas de licenciement. On peut l'appliquer pour les autres conflits, mais lorsqu'il s'agit d'un licenciement, vous ne pouvez plus aller au juge et lui dire, ben les voilà, attendez l'application, pour le forcer à l'appliquer, il faut me donner un jugement avec la scène journalière. On ne pourra plus recourir. Donc, facilité de licenciement, facilité d'abord du contrat de travail à durée déterminée et tout le travail temporaire sans qu'il ne soit accompagné par des mesures, sans qu'il soit accompagné par des mesures de protection des travailleurs et de stabilité, facilité extrême de licencier et impossibilité aux travailleurs de réintégrer son poste si l'employeur refuse, même avec l'aide de la justice, ce sera plus possible. Mais il y a aussi ça, c'est la première flexibilité, c'est ce qu'on appelle la flexibilité de l'emploi. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, les libéraux, ils parlent de trois flexibilités. D'abord, c'est la flexibilité de l'emploi. C'est-à-dire, flexibilité de l'emploi, c'est quoi? C'est permettre à l'employeur de recruter comme il veut, avec le statut qu'il veut, et il peut licencier au client. C'est-à-dire la flexibilité de l'emploi. Vous avez la deuxième flexibilité, c'est ce qu'on appelle la flexibilité salariale. La flexibilité salariale, c'est-à-dire, c'est de remettre en cause la négociation collective et remettre en cause surtout le CNMG. Et on va y aller doucement. Par exemple, en matière de salaire, il va y avoir un grand changement dans la définition du CNMG en Algérie. Dans le nouveau code de travail, il va y avoir un changement. Ça fait 2 années, après le syndicaliste, tout le monde a parlé du fameux 87 bis. Les 87 bis qui existe depuis 90. Depuis l'année 90, le 87 bis, il définissait le salaire de SNMG, il le définissait comme étant composé du salaire de base et de toutes les indemnités de toute nature qu'elles soient, à l'exception du remboursement des frais engagés. C'était ça le SNMG. C'est-à-dire avant, c'est-à-dire le 87 bis. Le 87 bis, beaucoup d'indemnités liées à la production, aux résultats et à la productivité. C'est pour ça que les travailleurs, depuis maintenant 20 ans, ils luttaient pour qu'ils aient le 87 bis, ils en 94. Parce qu'en 90, le SNMG était égal au salaire de base. En 94, on a les accords avec la famille, le SNMG a été changé, Zadourou, toutes les indemnités qui sont liées aux résultats de travail, aux conditions de travail, et, c'est-à-dire aux conditions de travail, aux résultats de travail, la productivité. C'est-à-dire en 1994. En 2015, ils ont changé cette formule justement. Ils ont revu cette définition. Et dans cette définition, ils ont réintégré le SNMG. En 2015, les travailleurs ont été lésés par une définition restrictive et discriminatoire des composants de la SNMG, du SNMG, puisque les indemnités relatives aux conditions de travail et à la qualification ont été intégrées au SNMG. Dans la définition de 2015, les primes liées aux conditions de travail, c'est-à-dire salaire sûr, les primes de danger, les primes de pénibilité et les primes de qualification, c'est-à-dire liées au diplôme et au savoir, c'est pour ça que les travailleurs, mais cette fois-ci, la nouvelle définition, ils vont ajouter dans la définition du SNMG un point qui est très important, c'est toutes les primes liées à la productivité, au rendement et au résultat de travail. À partir de ce code-là, ils vont faire partie de la division du SNMG. Ils vont être des composants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le SNMG est à 18 000 dinars. Maintenant, un patron, il y a le salaire de base, plus les primes liées aux conditions de travail. Mais il y a toute la PR et PRC, il y a le 13e mois, il y a. Et c'est tout ça qui ne doit pas être inférieur à 18 000 dinars. Et non pas uniquement salaire de base. Donc, si on applique la définition, ça veut dire que les travailleurs vont perdre en moyenne, dans le secteur privé surtout, vont perdre au minimum 20% de salaire, mais les revenus. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez Hadou, ça représente quelque chose entre 10 à 20%. En moyenne, les primes Hadou qui sont liées aux résultats et à la productivité, c'est 10 à 20%. Et la définition, justement, l'article 132, à l'avant-projet du Code de travail, il va changer la définition du SNMG et c'est un autre danger dont personne n'en parle. Alors que dans tous les pays, le SNMG ne doit comporter que le salaire de base. Parce que le SNMG, c'est quoi? C'est le salaire minimum qu'un travailleur peut toucher. Imaginez que nous sommes deux, nous faisons le même travail, nous sommes des manœuvres, nous sommes classés au plus bas de l'échelle, et nous sommes des manœuvres. Et nous sommes au plus bas de l'échelle. Nous touchons 18 000 dinars. Et imaginez que moi, dans mon atelier, il y a un danger quelconque, une salissure, les conditions de travail se dégradent. Imaginez que les conditions de travail vont se dégrader, donc un agent aurait besoin, j'aurais droit à une prime de salissure, ou à une prime de danger, ou à une prime de production, c'est-à-dire je vais faire des résultats importants. Parce que la production terrestre, je vais dépasser ce qu'on m'a tracé comme objectif et je vais toucher un SNMG 18 000 dinars. Qui va avec une productivité, une production, des résultats extraordinaires, je vais toucher mon salaire minimum plus les primes qui sont liées au travail leader-tour, je vais toucher 18 000, ou oui, il va toucher 18 000. Est-ce que c'est possible? Comment c'est possible? Et c'est pour ça qu'il y a eu en France et en Europe des cas similaires. Ont été soumis à la justice et les cours de cassation et la jurisprudence dans les pays européens, la jurisprudence a arrêté les primes liées aux conditions de travail doivent venir en su du salaire minimum. Mais qu'on est membre du salaire minimum, mais elle doit venir en su, c'est-à-dire ziyada al salaire minimum, parce qu'elle vient pas, c'est pas un salaire, elle vient indemniser une condition de travail, elle vient pas indemniser le travail. Sinon, il y a un principe fondamental qui est même de Sortana, c'est le principe d'égalité qui n'est pas respecté. Parce que le principe d'égalité de Sortana, comme ailleurs, il faut que lorsqu'il y a deux personnes qui sont placées dans les mêmes conditions, elles doivent avoir le même traitement. Traitement dans tout, avoir les mêmes droits, dans tout, y compris pour le salaire. Donc, cette histoire de SNMG, c'est une deuxième. C'est un deuxième aspect de remise en cause importante qui va toucher le monde du travail. Rapidement, je vais vous donner aussi une troisième flexibilité, parce qu'il parle de flexibilité des conditions de travail, et vous avez ce qu'on appelle la flexibilité salariale, c'est-à-dire que les patrons il faut leur permettre d'ajuster les salaires qui m'aiment. Et la troisième flexibilité, c'est ce qu'on appelle, la flexibilité horaire. C'est-à-dire, vous avez vu la flexibilité horaire, c'est quoi? C'est de permettre aux patrons sur la durée de travail ou sur l'aménagement de la durée de travail et sa répartition, son organisation, c'est ce qu'on appelle la flexibilité horaire, c'est-à-dire les horaires de travail. Jusqu'à aujourd'hui, la loi actuellement, elle protège encore les travailleurs, mais la durée légale de travail, les 40 heures, les 8 heures, 12 heures maximum l'amplitude, le droit au congé, le congé familial, tout ça aujourd'hui, la législation actuelle, malgré le 90, mais elle protège fondamentalement les travailleurs en moins contre les employeurs qui la respectent. Mais à partir justement de ce projet de code de travail, beaucoup de choses vont être remises en cause la nouvelle loi, et beaucoup plus que ce qu'il y a dans la loi Khomri. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus en Algérie, malheureusement, personne n'en parle. Je vous cite juste le khotot al-arid de Hambark, la flexibilité horaire qui va être touchée en Algérie. D'abord, le principe de l'association des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail, elle va être mise en cause. La loi actuelle, toute la loi, les travailleurs à travers leurs syndicats doivent, dans le cadre de la négociation collective, participer à la détermination des conditions de travail. C'est la négociation collective, il faut qu'il y ait un accord collectif. Ça va disparaître et elle va être remplacée juste par consultation. C'est-à-dire les travailleurs seront juste consultés. Et en termes juridiques, la consultation, ce n'est que la demande d'un avis, alors que la négociation, c'est un accord qui se fait entre les deux parties. Plus que ça, dans la loi actuelle à 90-11, au comité de participation qui assure justement la participation des travailleurs, il y a une disposition, c'est les attributions, parmi les attributions du comité de participation, il y a ce qu'on appelle les attributions de surveillance. Parce que le comité de participation a des attributions d'information et de consultation, il est consulté pour donner un avis sur certaines choses, et il a des attributions de surveillance, à part gérer les affaires aussi. Les attributions de surveillance, c'est que le comité de participation a comme attribution de surveiller l'application par l'employeur de toutes les dispositions légales et réglementaires en matière d'hygiène, de sécurité et de sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il doit les surveiller et en cas où ils échouent, par exemple, ils n'ont pas déclaré un travailleur à la sécurité sociale ou les maquettes de la médecine du travail, les comités de participation ont le droit d'intervenir. En matière d'emploi, ça fait partie d'une. Ils doivent surveiller l'emploi, c'est-à-dire les CDD, les CDI, les comités de participation ont le droit de surveiller. Or, Flavon Projet, justement, en matière d'emploi, le droit des travailleurs de surveiller l'application des dispositions réglementaires en matière d'emploi, qui existe actuellement, a été supprimé et elle va être changée. Vous êtes sur le dernier hira, c'est le hayul. Chalou la même phrase, vous êtes le réclamateur handicapé. Le comité de participation, chalou exactement la même phrase. Parmi les prérogatives du comité de participation, on a le droit de surveiller l'application des dispositions légales en matière d'emploi des handicapés. Zadou la kemet les handicapés. C'est pour ça que beaucoup de gens ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils disent la phrase, ils n'ont pas touché. C'est-à-dire que le comité de participation ne pourra plus parler de l'emploi des travailleurs en général, ou des travailleuses, ou des jeunes, mais il ne va surveiller que l'emploi des handicapés. Et ça, c'est une atteinte très grave aux prérogatives qui existent actuellement. La même chose, la surveillance justement, le comité de participation pouvait intervenir lorsque les dispositions en matière de sécurité sociale ne sont pas respectées. Imaginez un employeur qui ne déclare pas ses travailleurs à la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas affiliés. Et c'est le cas aujourd'hui en Algérie. Si la CNR reconnaît des problèmes, c'est le problème essentiel, c'est la non-affiliation. Et maintenant, justement, pour la prochaine loi, le comité de participation, dans ses prérogatives, il n'aura plus le droit, il ne peut plus surveiller les dispositions en matière de sécurité sociale. Et c'est la même chose en matière de sur la durée légale du travail, c'est-à-dire sur les autres dispositions, même ils qui met les 40 heures, qui met la durée légale d'une journée, qui met les 8 heures pour la journée, il ne peut pas dépasser 12 heures d'amplitude journalière, etc. Même dans le cas où ils les sanctions qui sont prévues par la loi, elles disparaissent. C'est-à-dire, il y a le canon, mais lorsque vous allez aux sanctions pénales qui sont prévues en cas de non-respect, vous trouvez que toutes les sanctions, soit elles disparaissent, soit elles sont réduites vraiment, il y en a de beaucoup. Aujourd'hui, je vous donne les cas. Par exemple, en cas de non-respect de travail de nuit ou de heures supplémentaires, l'actuelle loi, il y a des peines de prison qui sont prévues. Avec les peines de prison, dans la majorité des cas, nous avons des amendes. Lorsque la médecine du travail, par exemple, n'est pas respectée, ou les heures supplémentaires ne sont pas respectées, les sanctions pénales actuellement, il y a des amendes, ça fixe le montant de la amende, qui sont appliquées autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés. C'est-à-dire que si vous avez 200 travailleurs, s'il y a une amende de 1000 dinars, en 90 000 dinars, c'est le SNMG. 1000 dinars, c'est comme 1000 dinars. Il est appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs. C'est-à-dire que si vous avez 200 travailleurs, c'est 200 travailleurs fois 1000 dinars. Mais l'actuelle loi, une seule sanction, c'est 100 000 dinars. C'est-à-dire qu'il n'y a plus. Alors imaginez aujourd'hui, si on parle de médecine de travail, un employeur qui ne met pas en place la médecine de travail, la seule sanction qui lui sera opposable par la justice, c'est de payer une amende de 100 000 dinars. 100 000 dinars, c'est même pas c'est à peine le salaire d'un mois de médecine de travail. Alors imaginez, il acceptera largement de payer l'amende deux fois, trois fois, quatre fois que d'aller recruter deux médecins de travail et deux infirmiers ou deux auxiliaires. Je terminerai, il y a beaucoup d'autres points, mais je terminerai pour ne pas en faire un grand, on est un peu pris par le temps. Je terminerai sur le droit syndical, la même chose, sur les droits collectifs, que ce soit le droit syndical, que ce soit le droit de grève. Tout le monde sait qu'aujourd'hui en Algérie, le droit au libre exercice du droit syndical, la liberté d'exercer le droit syndical, la liberté du droit de grève, elle existe. Il y a de jure, elle existe dans les textes, mais dans la pratique, dans les faits, on sait qu'elle est trop réglementée de façon pratiquement à la ronde impossible, surtout pour le droit de la grève. Pour le droit syndical, il est très canalisé et très limité, et on voit ce qui se passe sur le terrain concernant le droit syndical. Eh bien, ces restrictions au droit syndical, ces restrictions au droit de grève, elles vont être encore aggravées, elles vont être encore multipliées, et ce qui est vraiment plus grave, lorsqu'on examine par exemple les sanctions qui sont prévues, en cas de non-respect, je vous donne juste un détail. Le code de travail, les sanctions qui sont prévues, par exemple, contre le travailleur qui ne respecte pas le droit à la grève, c'est-à-dire qui fait une grève illégale, les sanctions terroristes sont vraiment aggravées. Et lorsqu'il s'agit d'atteinte au droit syndical, au droit de grève, d'un employeur, vous allez trouver que les sanctions ne sont pas aggravées. C'est-à-dire que même par rapport à ce qui existe, mais à l'Al-Qudam, les sanctions, elles vont être aggravées contre les travailleurs pour toucher au droit syndical, mais elles ne vont pas être aggravées pour les employeurs lorsque ces employeurs, justement, s'opposent à ces droits. Je vous donne un exemple. Pour le droit syndical, par exemple, diriger, administrer, réunir ou favoriser une réunion d'une organisation syndicale objet de dissolution, c'est-à-dire si un syndicat est dissous, et s'il y a un travailleur qui va faire une réunion, vous allez actuellement, la loi actuelle, qu'est-ce qui est prévu? Il est prévu une amende de 5000 à 50 000 dinars et ou 2 mois à 2 ans de prison. C'est la loi actuelle. Mais la loi de la police du code de travail, l'amende de 100 000 à 200 000 dinars et la prison de 2 mois à 3 ans de prison. Au lieu de 2 ans, il y à 3 ans de prison. Regardez l'aggravation de la situation. Alors que lorsqu'il s'agit de l'atteinte au libre exercice du droit syndical, actuellement, la loi, elle prévoit une amende de 10 000 à 50 000 dinars, et en cas de récidive, en cas de récidive, 50 000 à 100 000 dinars et ou 1 à 6 mois de prison, ce qui est prévu actuellement. 1 à 6 mois de prison, il y en a pour l'employeur qui porte en tête. Et dans la nouvelle loi, c'est 50 000 à 100 000 dinars et la peine de prison reste toujours de 2 mois à 6 mois. Alors que pour le travailleur, il a été aggravé d'une année de prison. La même chose, obstacle à l'exécution d'une décision et, ou de dissolution d'une organisation syndicale. Si un syndicat est dissous par la justice, et si un travailleur ou un syndical s'oppose, c'est-à-dire qu'il va se réunir, ou là, il va dire une manifestation, là, il va s'opposer à la décision de justice, actuellement la loi, elle prévoit de 2 à 6 mois de prison. Dans le nouveau code de travail, c'est 6 mois à 3 ans de prison. Et vous voyez que lorsqu'il s'agit de prendre des mesures contre les syndicalistes, contre le droit de travailleur de se défendre, de s'organiser, toutes les peines sont en train d'être aggravées, vont être aggravées, alors que toutes les peines concernant les employeurs, dans beaucoup de cas, elles disparaissent complètement. Lorsqu'il y a des peines de prison, elles deviennent des amendes. Et lorsqu'elles restent, elles sont en général, elles sont diminuées. Et dans beaucoup de cas, je peux vous citer des exemples où elles vont vraiment sauter, où elles vont carrément sauter. Voilà, par exemple, je vous donne où elles vont supprimer. À titre d'exemple, là, il y en a beaucoup de cas. Où elles vont supprimer, par exemple, lorsqu'il n'y a pas un respect par l'employeur des dispositions légales dans les domaines suivants. Absence de surveillance particulière des apprentis. Aujourd'hui, les apprentis sont vulnérables. C'est des jeunes vulnérables. Si l'employeur n'a pas de disposition de surveillance particulière en matière de médecine de travail, aujourd'hui, la loi, elle prévoit des sanctions contre l'employeur. Elle va disparaître. C'est-à-dire les employeurs ne seront plus tenus par la surveillance particulière. Travaux confiés aux femmes et aux travailleurs mineurs qui exigent un effort qui est supérieur à leur force. Aujourd'hui, la disposition actuelle, l'emploi des femmes ou des travailleurs mineurs dans des travaux où l'effort qui est demandé il est supérieur à leur force, aujourd'hui, il est puni par la loi. Le nouveau code de travail, mais la sanction qui est prévue en cas de non-respect, elle disparaît. Alors que c'était prévu jusqu'à la prison. Aujourd'hui, elle disparaît dans le nouveau code. Il n'y a aucune sanction. Donc, à quoi ça sert de la loi ? Il y a l'inéffectivité de la loi. Il y a des lois par hasard. Lorsque vous voyez les théoriciens néolibéraux, partout, tout le monde parlait de justement d'aller vers cette inéffectivité. Il dit le canon, mais ça ne va pas être très bien. Donc, comme ça, on a l'impression d'avoir un code de travail qui respecte les droits. On a beaucoup de syndicalistes qui n'ont pas lu ça. Personne n'a rajouté les sanctions. Ça y est, la disposition est maintenue. Donc, il n'y a pas de changement. Alors que lorsqu'on supprime la sanction qui est prévue en cas de non-observation de cette disposition, c'est un changement fondamental. Et je peux vous citer, M. Gradier, exigeant l'effort, absence de formation particulière en direction des travailleurs aux fins de prévention. Parce que lorsque les travailleurs sont affectés à des postes particuliers dangereux, ils doivent les former. Elle a disparu, elle a été supprimée la sanction. Défaut d'équipement de vêtements de sécurité et de dispositifs individuels, ou des t-shirts brouillés ou les lunettes. Aujourd'hui, la loi, l'employeur qui ne donne pas ces dispositifs, il est puni par la loi. Aujourd'hui, la nouvelle loi, elle va disparaître. La sanction, elle va disparaître, la nouvelle loi. L'absence de commission d'hygiène et de sécurité. S'il ne met pas en place, il y a un texte, un article, où les commissions d'hygiène et de sécurité sont obligatoires dans toute entreprise qui rassemble au moins 9 travailleurs. Mais la disposition qui est sanctionnée, sa non-observation par l'employeur, elle disparaît. La médecine de travail, la même chose, ça pouvait aller jusqu'à la prison. Mais l'inexistence de la médecine de travail, elle disparaît. Donc est-ce que ça, ce n'est pas des mauvais messages, ou plutôt des bons messages, tout dépend de quel côté on est de la balle, qui sont donnés aux employeurs, justement, pour ne pas respecter ces dispositions légales qui vont rester. Parce qu'il y a une partie, il y en a qui vont vraiment disparaître, et il y a d'autres parties, il y en a qui vont rester, mais qui seront soit moins sanctionnées, soit qui ne seront pas sanctionnées du tout. Voilà, pour laisser, il y a d'autres points, mais pour laisser un peu, bon, je termine un point juste important, c'est le travail des enfants, c'est très important. Parce que beaucoup de gens qui la presse aussi, ils parlent du travail des enfants, alors qu'au contraire, on va renforcer la protection des enfants dans ce nouveau code. Alors que ce n'est pas vrai. Même pour le travail des enfants, ce n'est pas vrai. L'emploi, la constitution algérienne, elle précise dans son article 69 que l'emploi des enfants de moins de 16 ans est puni par la loi. Elle ne parle d'aucune particularité. Sauf dans ou là. Or, dans le nouveau projet de code de travail, il prévoit que dans le domaine artistique, dans tous les domaines artistiques, dans tous les métiers artistiques, c'est-à-dire acteurs, chanteurs, n'importe quelle activité artistique, les enfants mineurs, moins de 16 ans, peuvent être employés par le patron. Mais plus grave, moi je dis 6 ans, il précise même le canon, entre 6 et 16 ans, on m'a dit que bon, et pour les enfants de moins de 6 ans, il ne faut pas que la durée dépasse. Ça veut dire que maintenant, même les enfants de moins de 6 ans, ils ont des enfants, à condition qu'ils aient des vacances scolaires, mais qu'ils ont des enfants. Alors, déjà, les vacances. Et deuxièmement, si on ouvre ça, Radway vont nous dire que non, qu'il y a des enfants qui ont décroché. Avec ma chikra, ma douche de vacances, donc je peux l'utiliser pour l'âme kamel. Et même le recours des enfants au travail de nuit, il a disparu. Mais Christian, jusqu'à maintenant, c'est interdit d'envoyer des enfants désaffectés au travail de nuit. Actuellement, le recours des enfants au travail de nuit, maintenant, il est permis. Et mais plus grave, la contradiction qu'il y a, et là, ça montre que le code de travail a été fait par les patrons. Et à la va-vite, il y a une contradiction flagrante sur les dispositions justement qui sanctionnent le travail des enfants. Nous avons deux dispositions. Nous avons une disposition qui sanctionne le recours au travail des enfants en général, c'est-à-dire de moins de 16 ans. Quiconque emploie un enfant inférieur à l'âge légal est puni de. Il est puni actuellement de 20 000 à 50 000 dinars et de 2 mois à 6 mois. Ou là d'une amende de 40 000 à 100 000 ou de l'une de ces peines en cas de récidive. Hadi de 2 à 6 mois. Hadi concernant la règle générale. Mais dans le cas des enfants hadi à moins de 6 ans, ou hadi le cas des enfants dans le domaine artistique, parce que c'est un autre chapitre, les ados, pour le code de travail, les ados, il faut que dans l'article, l'ouest c'était l'article 241. Dans l'article 250, il faut que tout contrevenant aux dispositions des articles 49 et 50, vous avez oublié de créer le domaine artistique où les enfants sont utilisés, de la présente loi relative à l'emploi de travailleurs mineurs des deux sexes de moins de 16 ans est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans de prison et d'une amende de 10 000 à 10 000 dinars ou de l'une des deux peines. C'est-à-dire qu'il faut stammer les enfants dans un truc général, c'est-à-dire dans l'industrie, dans des trucs qui sont pénalisants pour sa santé. Il y a une personne qui meurt, ou tu stammer un enfant de 10 ans, tu stammer dans l'industrie pour travailler de nuit, tu as dit au maximum, la peine de prison, au maximum c'est 6 mois. Oui, là, tu as fait un travail artistique, 3 heures, puis les congés étaient au barque, il y a eu 3 ans de prison. C'est-à-dire, voilà la cohérence, voilà la cohésion, c'est juste pour montrer que non, c'est comme le travail des enfants, mais attention, alors, le juge, il aura le choix entre les deux. Qu'est-ce qu'il va appliquer? Les juges s'appliquent pour les enfants. Et sur la protection justement du travail des enfants, la protection par la législation actuelle des conditions d'emploi de travail mineur âgé de 16 à 18 ans a été supprimée ou réduite, puisque le travailleur mineur ne peut être employé à des travaux dangereux, insalubres et nuisibles à sa santé ou préjudiciables à sa moralité sous peine d'une sanction de 2 000 à 4 000 dinars, appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs. Là, c'est important. C'est pas là pour les enfants et c'est pas là pour les travailleurs. La définition elle-même, tu as la santé au travail, tu as la médecine au travail, elle va être changée pour le travail. C'est pour ça que j'ai dit dans une de mes interventions, j'avais dit que le travailleur va devenir une marchandise, une simple marchandise. Moi je dirais plus, il va être soit une marchandise, soit une machine. Parce qu'au lieu de parler de santé des travailleurs, on va parler d'intégrité physique des travailleurs. On parle d'intégrité physique et mentale des travailleurs. C'est-à-dire l'intégrité physique, c'est un débat qui est en Europe. L'intégrité physique, c'est qu'un enfant il perd un œil, ou il perd un bras, ou il perd un doigt. C'est-à-dire son intégrité physique a été touchée, ou son intégrité morale. Alors qu'aujourd'hui, on va voir ce. Mais dans la loi actuelle, il dit que non, c'est toutes les conditions d'insalubrité, de danger, de pénibilité qui touchent à la santé de l'enfant et du travailleur. Donc, la définition aujourd'hui qui est générale, c'est l'hygiène et la sécurité des travailleurs qui portent atteinte à la santé, elle va être abandonnée au profit d'une définition qui va considérer le travailleur comme une simple machine, ou là, comme une simple marchandise. On va passer à la définition, oui, les conditions de travail qui portent atteinte à son intégrité physique, mentale ou à sa moralité. Et l'intégrité physique, c'est lorsqu'un organe est à disparaître. Et dans ces conditions-là, justement, les travailleurs vont être vraiment pénalisés. Et je termine ça, c'est pour ça que j'ai commencé par dire. Beaucoup de gens ont dit pourquoi il a commencé par parler de l'histoire du Bangladesh. Lorsqu'on regarde les conditions de travail aujourd'hui et la protection qui va reculer, si on ne fait rien du tout, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, croyez-moi, on ne sera pas meilleur que ça sert au Bangladesh aujourd'hui. Regardez comme ça.
Merci, M. Boudrouba, pour cet exposé vraiment bien détaillé. J'espère que M. Oujadi a une réponse à la question qu'il a posée à la fin de son intervention. Donc, c'est clair, on est face à un pouvoir public, à un régime qui est là pour soutenir la précarité, les injustices sociales. Donc, ce code de travail, quand vous l'avez qualifié, au lieu de l'appeler code de travail, je préfère l'appeler le code de patronat. Donc, il est là pour défendre les droits du patronat, non les droits des travailleurs. Donc, nous sommes interpellés tous pour... ça veut dire qu'on doit se mobiliser pour faire face à ce code de travail et des lois qui vont venir, qui peuvent être que liberticides et scélérates au détriment de la population et qui remet en cause davantage les acquis sociaux qui existent déjà. Donc sans trop tarder, donc on ouvre le débat pour les intervenants. C'est juste, je souhaite que les intervenants vont faire des interventions un peu plus brefs pour donner la chance à l'ensemble d'intervenir. Donc la parole est à vous. Voilà, donc je commence par monsieur
Abdelhadi Farbah. C'est bon. Alors merci beaucoup et vraiment, heureusement que je n'ai pas raté cette rencontre-là parce que j'ai appris énormément et c'est très instructif et en même temps ça nous interpelle énormément parce que là on est au cœur des grands problèmes, des vrais problèmes et je crois que ça s'est très bien complété entre Ami Nassar qui a bien décrit la situation du monde du travail et la situation des travailleurs et la situation de la classe ouvrière, on peut dire ça. Et il a dit un mot, une caractéristique orphelin. Oui, orphelin à tous les plans. Politique, d'organisation syndicale, sur le plan idéologique. Et c'est pas seulement en Algérie, mais il se trouve que ça, on est dans une période de reflux dramatique, tragique. Et là, on a une illustration. Moi, j'essaye d'apporter maintenant ma petite contribution. Alors, je m'interroge, pourquoi un tel dispositif de guerre sociale pour un capital privé qui est connu pour être vraiment rachitique, n'est-ce pas? Vous savez que ces dispositifs-là, le capital les a convoqués en pleine crise de rentabilité, en pleine crise de taux de profit, n'est-ce pas? C'est des époques historiques où il a brandi et mis en œuvre ça pour casser, abaisser le niveau des salaires et préserver les marges de profit et les possibilités de lutte concurrentielle. Or, quand on regarde la structure économique aujourd'hui de l'Algérie, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un secteur privé, c'est 98% ou qu'importe, hein, ou 97%, qui est moins de 9 employés. En plus, tous, les trois quarts, plus des trois quarts, dans les services, et dans le commerce et dans les services. Très très peu dans la production matérielle, n'est-ce pas? Dans les services et dans le commerce, comme relais du capital comprador, pas comme prolongement de l'activité productive. Ce n'est pas des services pour la production matérielle, c'est des services pour, ou le commerce pour... au service du capital comprador. Donc nous avons là pratiquement un bouleversement qui s'est produit. On n'a plus que 5% de la part de l'industrie dans la valeur ajoutée et quelques 6 à 7% dans la main d'œuvre, n'est-ce pas? Tout le reste est dans les activités qui, en plus d'être en dehors, pas tout à fait au cœur de la production matérielle, services, commerce, transport, etc. En plus, souvent, quand elles touchent à la production matérielle, comme dans l'agroalimentaire ou dans le textile, elles sont vraiment un taux de valeur ajoutée de 8 à 10%, comme ça, 12%, n'est-ce pas, hein? Tout le reste, c'est-à-dire c'est vraiment importé encore. Donc, on ne voit pas où se posent les problèmes qui, c'est-à-dire, on démolit une montagne pour une petite souris, quoi. Donc, la seule explication qu'on peut avoir, c'est pour le capital étranger. Ça, c'est destiné à dire au capital étranger, n'hésitez plus par rapport aux autres pays. Nous, on est là. On vous offre, c'est très bien dit, une marchandise, n'est-ce pas? Parce que le capitalisme, c'est ça. la force de travail, c'est une marchandise, et le rapport salarial, c'est celui-là. Alors, ça, c'est ma première observation, ma première contribution. Maintenant, sur comment on est arrivé là, la situation ici, je vais être très bref. Nous avons une situation, nous, les luttes de classe, on va dire d'affrontement de classe, même si elles étaient altérées, je m'excuse du terme, entre guillemets, elles étaient altérées par l'impératif du national, elles se sont déroulées avant l'indépendance. Les grandes batailles de classe, Nasser le sait, que ce soit des ouvriers agricoles, des mineurs, des dockers, des ouvriers d'Al-Halfa, etc. C'est des grandes batailles avec une conscience de classe, le besoin d'un syndicat, le besoin d'un parti de la classe ouvrière, ça c'était avant l'indépendance. Après l'indépendance, ces acquis de conscience, n'est-ce pas, ces avancées-là, elles ont pesé pour qu'on ait un État social, n'est-ce pas, l'État social au sens où il a la protection sociale, il favorise les droits des travailleurs, etc., etc. Et là, on a une situation où, bien sûr, ceux qui ont prévalu dans le mouvement national, ils avaient une vision, comme a dit Nasser, le syndicat, c'est comme les femmes à la maison. C'est pas, une fois qu'on n'a plus besoin, à la maison. Ils ont mis Aïssa Tedir comme celui qui dit, voilà le syndicat revendicatif, pour l'indépendance d'Algérie, monsieur Ousmane. Et donc, c'est ce qui a prévalu, c'est-à-dire Abdeslam Blaïd, c'était le meilleur, celui qui exprimait le mieux cette situation. Nous sommes dans une situation, après, on a une situation où les syndicats, on les a forcés à être un petit peu le syndicat organique, comme on dit l'intellectuel organique. Mais le problème, c'est qu'il y a eu quand même des avancées, problème entre guillemets. Alors, il y a eu des avancées, on est dans une situation où on s'est un petit peu habitué à avoir plus des acquis que des conquêtes. On est dans une situation où les avancées qu'il y a eu, le SGT et tout, relevaient plus un petit peu du poids qu'il y avait dans le pouvoir, ce qui était bien, n'est-ce pas, on ne peut pas bouder le fait qu'on a une guerre de libération qui a donné ça, mais en même temps, ça n'a pas préparé à des affrontements. Quand il y a eu la rupture, quand il y a eu la casse de Chedley, la contre-révolution à l'Algérienne, eh bien, il n'y a pas eu de grandes oppositions. On a démantelé, cassé l'outil industriel de l'Algérie, alors qu'il était en train de, dans la période de croissance, hein, on va dire, comme un enfant. Hein, c'est pas encore, on l'a cassé sans grandes oppositions. On a continué à manœuvrer, etc., parce que j'ai envie de dire magouiller, parce que c'est pas fait clairement, de manière transparente, à l'ombre du terrorisme, etc. N'est-ce pas ? On a modifié, bouleversé les rapports sociaux, complètement, dans l'agriculture. Alors, il faut voir ce qui est en train de se dérouler. N'est-ce pas ? Et au final, on a ça. Mais ça, vous voyez bien que ça, c'est destiné au capital étranger. Alors maintenant, personne ne va. Vous voyez bien que le rapport de force est tel qu'il n'y a pas de grandes oppositions. Moi, je suis d'accord avec Nasser. Cette vision lucide qu'il a, ou alors c'est le pessimisme de Gramsci, de l'intelligence. Oui, oui. Alors, et je vais terminer tout de suite. Ça devrait nous donner à réfléchir à tous ceux qui font un certain nombre de paris sur les transformations possibles et rapides de la situation politique en Algérie, sans se soucier des bas objectifs de ce qu'ils anticipent. Parce que là, il y a, c'est ça la photographie, c'est celle que vous avez donnée, c'est celle-là la vraie photographie. Alors cette écume qu'on sent comme ça monter, etc., elle n'a pas des assises. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci pour cette contribution. C'est juste, je rappelle qu'il faut faire bref le plus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont intervenir, s'il vous plaît.
Moi, je vais être très, très bref. Je pense qu'il y a deux ou trois arrêts sur l'image qu'on ne peut pas éviter aujourd'hui en Algérie. La première image, c'est au niveau du machin où on fait des lois. Il y a 79 membres du FCE qui siègent aujourd'hui là-bas. C'est une donnée importante. Deuxième donnée importante au niveau des pouvoirs publics. Nous avons des pouvoirs publics qui sont incapables d'aller chercher les vraies solutions. La preuve, on est pour ce qui est de la CNR, au lieu de demander aux patrons de cotiser, il y a 2 millions à 4 millions de travailleurs qui aujourd'hui ne sont pas affiliés à la caisse, à la CNAS et à la CASNAS. 2 à 4 millions, c'est de quoi alimenter, de quoi permettre à la CNR d'avoir suffisamment d'argent au lieu de recourir au trésor chaque année 2,5 milliards de dollars, l'équivalent. L'autre élément qui est important, c'est les caisses de l'État. Elles sont de plus en plus vides, pour ne pas dire vidées. Et ce qui nous pousse, avec cet assèchement des ressources de l'État, à envisager une possibilité de voir un jour la Sonatrach mise en bourse. Elle est dans l'air. Donc, tout ça pour revenir à la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous, on doit, c'est-à-dire au niveau de l'alerte, parce que les 15 syndicalistes, je ne pense pas qu'ils soient encore syndicalistes quand on siège à l'APN. On devient autre chose. Donc, il faut aujourd'hui alerter, faire du bruit, parce que cette loi, je ne sais pas qui l'a rédigée, mais parce que je pense que si on laisse faire les choses, le Bangladesh sera un peu mieux que nous, parce qu'on a géré, à la différence des autres pays, on a désappris à l'Algérien le travail. L'Algérien, ça fait 25 ans, on lui a désappris l'effort, le travail et a inversé les valeurs.
Bonsoir. Oui, je voulais dire, Nourdine a bien expliqué dans le détail, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le code du travail, sur le contenu, et je crois que le plus important... Et la discussion est en train de tourner là-dessus, c'est sur le contexte, en fait, qui permet ce dispositif de guerre sociale, comme vient de l'appeler notre ami Abdelatif. Je pense que nous avons assisté, au cours des dernières décennies, à une véritable contre-révolution en Algérie. Une contre-révolution à un double niveau. Une contre-révolution de type social, économique et social, où on est passé d'un projet de développement national, avec une certaine justice sociale en termes de répartition, de droits des travailleurs, à une politique d'infiteh qui... consiste à remettre en cause tous ces acquis et à intégrer de plus en plus l'économie algérienne à l'économie capitaliste mondiale aux conditions effectivement actuelles qui sont largement défavorables aux travailleurs. Je pense qu'il faut quand même préciser au lendemain de l'indépendance, il y a eu de grandes luttes des classes. Je veux dire, il y a eu un grand mouvement autogestionnaire qui avait comme objectif d'empêcher que les domaines qui appartenaient aux capitalistes coloniaux passe entre les mains de capitalistes algériens. Et si le pouvoir se réclamait du socialisme, c'est aussi parce qu'il y avait une pression qui venait d'en bas, à travers les comités de gestion, à travers les biens vacants, à travers cet accaparement par les masses de ce qui leur appartenait après la spoliation qu'avait représenté le colonialisme. Et effectivement, comme l'a dit Abdelatif, pendant des décennies, on a remis en cause ça de manière masquée. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. La remise en cause du caractère industriel, la remise en cause de la propriété nationale publique des entreprises, la remise en cause des acquis sociaux. Ça s'est fait par des réformes, par des avancées, des reculs. Ça s'est fait aussi par la répression. Je veux dire, depuis 62, la lutte portait autour de la mise au pas du GTA. Que ça soit en 68, que ça soit en 81, 82 avec l'article 120, tout a été fait pour briser le mouvement syndical. Tout a été fait pour empêcher l'opposition de gauche, le PACS, les organisations d'extrême gauche, de pouvoir travailler, de pouvoir agir, de pouvoir défendre. Et jusqu'au moment où le PACS a disparu en tant que, disons, colonne vertébrale des mouvements politiques de gauche, etc. Et il y a eu ensuite la décennie 90 qui a été axée sur la lutte armée et la politique du FMI, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, les nouvelles générations ne connaissent pas le travail productif, le travail industriel, parce qu'effectivement, l'économie algérienne a changé. C'est plus une économie productive qui avait 25 à 27% du produit intérieur brut qui était industriel. Maintenant, c'est 4-5%. La majorité des emplois sont des emplois de commerce, des commerces qui sont liés souvent au marché mondial, c'est-à-dire les petits revendeurs, qu'est-ce qu'ils revendent ? Ils revendent cela qui a été importé de l'étranger. On a liquidé la production du textile, on a liquidé des tas de secteurs industriels. Effectivement, il n'y a pas de visibilité. Les travailleurs, les syndicats, la gauche, etc., il n'y a pas de visibilité. Je pense qu'il faut Simplement, il faut nuancer. Quand on dit un syndicaliste ne peut pas être député, non. Moi, je connais au moins un syndicaliste qui est député, qui essaye de se battre. C'est Smaïl Kouadria, du PT, qui était syndicaliste à Al-Hajjar, qui a mené des grèves dans les années 2005-2006, quand il s'agissait de vouloir casser l'entreprise et de licencier encore un maximum de travailleurs. On peut ne pas être d'accord politiquement avec lui, avoir des tas de divergences, etc. Mais ça montre qu'il est possible d'être un travailleur syndicaliste, de défendre les intérêts des travailleurs et d'être dans des institutions pour défendre pied à pied les intérêts des travailleurs. Donc maintenant, dans la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'effectivement, il y a le pessimisme. Quand on écoute ça, on se dit « Khlas, il n'y a plus rien à faire ». Mais il s'agit de reconstruire tous ces instruments de lutte. Ça se fait aujourd'hui à travers les luttes syndicales, les syndicats autonomes, mais aussi les syndicats UGTA, qui luttent bien sûr avec leurs limites, leurs difficultés, leurs contradictions. Il y a des militants politiques, qu'ils soient organisés, qu'ils ne soient pas organisés, il y a des organisations qui essayent de travailler. Il faut aujourd'hui réfléchir à la façon dont il faut reconstruire tout ça pour organiser cette résistance. Parce que face à un dispositif de guerre, il va bien falloir se défendre. Et donc, il faut réfléchir aujourd'hui en termes de stratégie pour faire échec à cette offensive et préparer une alternative. Même si c'est sur le long terme, mais il faut y réfléchir dès maintenant.
Moi, je vais commencer par la fin, là, parce que c'est vrai qu'on se voit souvent, on discute et on repart chez nous avec la rage. Mais effectivement, parce que le problème, c'est les syndicats. Vous parlez des syndicats autonomes, je suis sceptique. Moi, je pense que ça a commencé il y a longtemps, comme disait Monsieur Lepeh, ça a commencé avec la 88-01, la remise en cause du SGT. Je pense que ce texte, il devait passer en 90, mais il y a eu des résistants. Parce que le FMI avait à l'époque... les injonctions du FMI, c'était entre autres serrer la vis et la sécurité sociale. Le texte en 2005, c'est à la même date que la sécurité sociale devait être démembrée. Elle a été démembrée par les textes. Hein. Il y a eu un décret où la caisse de sécurité sociale était divisée et l'UH l'a annoncé. Il a dit janvier 2006, elle rentre en vigueur. Il a essayé de la mettre en vigueur et dès qu'il a quitté le ministère du Travail, ça a été remis. Il y a eu un décret d'annulation de la caisse de recouvrement. Le démembrement de la caisse de sécurité sociale, c'était aussi pour privatiser à terme. Donc le texte, je pense qu'il était prévu en 90. Il y a eu des remises en cause en 90, mais il y avait quand même l'esprit protecteur parce que je pense qu'il y a eu des résistances. Et là, c'est passé à un stade supérieur parce que les syndicats autonomes, c'est des groupes corporatifs. Je suis désolée, moi je suis déçue par leur... Parce que je n'ai pas entendu parler ni de la sécurité sociale qui a failli disparaître et que le risque persiste hein, parce que d'Ukraine en crise, ils peuvent nous rappeler à l'ordre et nous demander de démembrer la caisse de sécurité sociale et privatiser le système de sécurité sociale, le système de sécurité sociale qui est basé sur la solidarité. Donc, c'est le texte. Je connais rien au qui est l'intersyndical, tu dire une action ou vraiment contre ce texte avec ça n'amène blikaine des syndicats autonomes. Je suis désolée, pour le moment, je les entends pas. J'entends Atona 25 ans à la retraite, Atona. Est-ce qu'ils se sont inquiétés du démembrement de la sécurité sociale? Je ne les ai pas entendus s'inquiéter. Même elle dit que la retraite inter sans condition d'âge, c'était une injonction du FMI. Personne ne le dit en 90. Ça a été appliqué avec l'Ort où ils ont un peu résisté sur les lois du travail. Maintenant, on passe à, parce que c'est la réaction est presque inexistante dans le monde du travail. Qu'il 1er mai ou le 8 mai, ou le GTA mettre le loi, au contraire, elle encourage. Tous les 1er mai, à la sécurité sociale, on distribue des armes aux travailleurs. C'est devenu une fête religieuse. Personne ne s'inquiète. Ben voilà où on en est arrivé. Voilà, c'est tout.
Enfin, je commençais par. Je commençais d'abord par madame pour essayer de nuancer un peu. C'est-à-dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, la sécurité sociale est menacée dans ses fondements, comme vous l'avez dit, un système de protection sociale basé sur la répartition et la solidarité. mais le dur va venir. Moi, j'étais administrateur à la sécurité sociale depuis 92 à 2001 et je connais très bien les problèmes d'Aouham. Et je pense que cette histoire-là de caisse de recouvrement, elle n'est absolument rien du tout devant les dangers de l'Amjéin. La caisse de recouvrement, c'est... Mais c'était rien du tout. Mais il n'y a pas de remise en cause du commerce. C'est quoi la caisse de recouvrement? La caisse de recouvrement, au lieu que ce soit la CNAS qui recouvre et qui va affecter à chaque caisse sa part, c'est d'avoir une caisse commune qui va recouvrir pour tout le monde, qui va recouvrir pour tout le monde, y compris pour la CNAS. C'est des problèmes internes. Mais c'est vrai qu'il y avait des calculs comme aujourd'hui on le fait pour les banques. C'est-à-dire le fait qu'on va maintenant déposer l'argent dans la sécurité sociale au niveau des banques, il y a des calculs derrière. Mais je dis que le démantèlement dans le système de sécurité sociale, il va bien, bien, bien au-delà de ce système-là. Juste pour corriger une chose, le système de retraite sans condition d'âge, il n'a pas été imposé par le FMI, contrairement à ce que dit le gouvernement, les Jutia et beaucoup de gens qui sont trompés. Il y a eu deux systèmes. Le système de retraite, il y a eu une première retraite qui a été imposée par le FMI, pas en 90, mais en 94, c'est ce qu'on appelle la retraite anticipée. Indique la retraite déroule dans le cadre de la mise en place d'un dispositif amortisseur social ou la caisse de chômage dans le cadre du plan d'ajustement structurel qui a été appliqué entre 94 et 98 pour envoyer les gens en chômage. Car il faut un revenu, il y a des problèmes sécuritaires, on va leur assurer un minimum de revenus et ils l'ont mis en place parmi tous les dispositifs, ils ont mis en place ces deux dispositifs, la retraite anticipée et la retraite et l'allocation chômage, t'as la CNAC. Malheureusement, justement, et c'est là que je rejoins ce que je disais tout à l'heure sur le compte de travail, Hamli de retraite, justement, la retraite anticipée, elle ne va pas être supprimée. La retraite anticipée, leader de FMI en 94, elle n'a pas été supprimée et elle ne va pas être supprimée. Et je vous dis pourquoi. Elle ne va pas être supprimée, vous voyez, vos fiches de paie restent de 2017, vous allez voir, les 0,5% de la retraite anticipée sont toujours mis en place. Pourquoi? Parce que la retraite anticipée, elle assure un revenu à la CNR de 13 milliards de dinars chaque année. 13 milliards de dinars. Il n'y a plus il y a personne qui parle en retraite anticipée. La CNR paye actuellement par année 180 millions de dinars dans le cadre de ce dispositif-là. Il y a 400 ou 450 qui sont toujours en train d'être payés dans ce cadre-là. Donc, il y a un revenu pour cette branche-là de 13 milliards de dinars contre un paiement de 180 millions de dinars. Donc, même financièrement, la CNR n'a pas intérêt, l'État n'a pas intérêt à enlever ce système-là qui est bénéficiaire. Par contre, en 97, la deuxième, ce que vous appelez la retraite sans condition d'âge, il a été instauré en 97, trois années après, c'est-à-dire que le plan du FMI était déjà finalisé. Les travailleurs étaient mis en chômage, il y avait 600 000 travailleurs mis en chômage, 1000 entreprises étaient déjà dissoutes, les gens, il y avait déjà plus de 350 000 qui sont partis à la Caisse nationale de chômage, on s'est anticipé, mais en 97, d'ailleurs, l'Algérie n'a rien à voir avec la FMI, c'était pour lutter contre le chômage. D'ailleurs, c'est deux types de retraite. Les gens ont 32 ans, ils rentrent à la retraite. Ou les gens ont 20 ans, 50 ans, 20 ans de cotisation, ils rentrent à la retraite pour libérer des emplois, pour libérer des emplois pour les jeunes. Et c'est ces deux retraites, les gens ont en 87 et les gens ont dernièrement, qui n'ont rien à voir avec la FMI. Justement, et les travailleurs, justement, aujourd'hui, s'opposent à ça, parce que le travailleur, jusqu'à aujourd'hui, ils ont doublé sa cotisation. Je vous donne le chiffre. En 90, les années 90, la cotisation totale d'un travailleur, la part terre, c'est sa fiche de paye, ne dépassait pas 3,5%. Aujourd'hui, sa cotisation totale dépassait 7,5%. 7,5% avec 0,5% dans les aides sociales. Il a plus que doublé. Donc aujourd'hui, les travailleurs, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, vous avez doublé ma cotisation au niveau de ce type de retraite, et j'ai cotisé pendant 32 ans, et si j'ai doublé et cotisé pendant 32 ans, parce que j'avais l'espoir, j'avais la promesse qu'après 32 ans, je peux partir en retraite. Vous ne pouvez pas, après 32 années, me dire que vous n'avez plus le droit. C'est-à-dire j'ai une créance sur le système, il n'a pas le droit de m'enlever cette retraite-là à 32 ans. Donc il y a une différence à faire entre le système de la retraite sans condition d'âge et la retraite anticipée. La retraite anticipée, c'était dans le cadre de la compression des effectifs, justement de la FMI. D'ailleurs, le travailleur ne pouvait ni la demander, ni la refuser. Vous savez qu'elle est imposée par l'employeur, la retraite anticipée. Le travailleur n'a pas le droit de la demander, il n'a pas le droit de la refuser. Si elle est inscrite au volet social, il aura mis ses. Tandis que la retraite sans condition d'âge, c'est le travailleur qui la demande et l'employeur ne peut pas s'opposer. C'est-à-dire que c'est son droit au travailleur et c'est à lui de partir. Donc voilà deux dispositifs qui sont différents. Pour rendre justice au syndicat autonome aujourd'hui, d'abord, moi je dirais tout à l'heure, mon frère Nasser, il avait parlé de syndicaliste, et il y avait Hussein qui avait répondu qu'un syndicaliste peut toujours, dans le cadre des institutions, continuer à défendre. Moi, ma position, elle se situe entre les deux. C'est-à-dire qu'un syndicaliste ou un militant, parce qu'un syndicaliste, il ne suffit pas qu'il soit organiquement syndicaliste. Moi, organiquement, ça fait 15 ans que je suis pris dans le syndicat. Organiquement, je dis. Mais dans ma tête, dans mes démarches quotidiennes, je suis toujours syndicaliste. C'est-à-dire que lorsqu'on est syndicaliste, on défend la cause des travailleurs, on n'est pas obligé d'être dans le truc organique. Mais même les syndicats organiques, il y a une idée la politique. S'ils prennent appui sur un mouvement syndical organisé sur la base, et lui, il porte la voix entre les travailleurs dans ces institutions, la Hiberg. Mais s'il n'y a pas ça au niveau du terrain, s'il n'y a pas ce mouvement-là où il est le porte-parole, moi je pense que d'une façon ou d'une autre, il finira par être phagocyté. Et c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Juste pour rappel, pour l'histoire, en 1994, on avait le CNT qui était désigné, c'est le Parlement désigné le Bakhtar qui avait vu le problème. Pour l'histoire, vous savez qu'aujourd'hui, à partir de 1996, a été voté au niveau de. Enfin, CNT avait adopté la loi, où un travailleur, lorsqu'il est licencié abusivement, même si le juge, Igolo Tarja, l'employeur peut merger avec 6 mois de l'Ukraine. La disposition, justement, de ne pas appliquer une décision de justice de l'intégration, elle a été votée par le CNT en 1996. Et pour la petite histoire, la commission sociale de la CNT en 1996 était présidée par un secrétaire national de la justice. Et c'est lui qui avait déclaré à 20h, la télévision, il avait déclaré « Aujourd'hui, j'annonce un grand taquet aux travailleurs, celui qui est licencié, que l'employé ne veut pas reprendre malgré sa décision de justice, il aura au moins 6 mois de salaire. » Il n'avait pas honte de le déclarer sur la télévision à 20h, en 1996. Et c'était un secrétaire national, pas n'importe qui, rien de l'UGTA. Et pour ce type d'article, je vous informe qu'en Italie, l'article 17 en Italie, justement, la non-application de décision de justice de réintégration, en Italie, il y a eu plusieurs tentatives. Ça fait 20 ans que le gouvernement italien veut une hiérarchie de point, justement, c'est-à-dire pour donner la possibilité à l'employé de refuser d'appliquer une décision de justice. Depuis 20 ans, à ce jour, il n'arrive pas. Il y a eu 3 grèves qui ont mobilisé des millions d'Italiens. 3 grèves générales, des millions d'Italiens, rien que sur le plan de cet article-là. Nous avons eu en 1996, et depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez chanter application des décisions de justice, non application des décisions de justice. On voit aujourd'hui, dans chaque congrès de l'UGTA, dans chaque réunion, tout le monde parle de non application des décisions de justice, alors que les gens ont contribué justement à ce que ces décisions de justice ne peuvent pas être appliquées. Concernant les syndicats autonomes, pour avoir travaillé avec eux, moi je pense qu'au contraire, moi j'estime que l'année, d'abord, qu'est-ce qu'ils revendiquent aujourd'hui? Moi j'ai été parmi les premiers, et je l'ai dit, il y a quelqu'un, un membre ici, et je l'ai dit dans les différents congrès, les amis syndicalistes des médecins, j'ai participé avec mon frère Nasser, le syndicat des enseignants, dans chaque rencontre avec eux, je leur dis, franchement, je leur dis, que moi, depuis les années 90, moi j'ai toujours regardé avec une façon très critique le corporatisme qui caractérisait le mouvement syndical. Il était corporatiste, il ne défendait que le salaire. Je leur dis dans leur congrès, je leur dis amicalement en face d'eux, et ils m'applaudissaient. C'est-à-dire qu'ils étaient d'accord. Mais depuis 2 années, il faut le dire, depuis des années, ils ont fait un effort qualitatif insurmontable. Il faut le reconnaître ça. Depuis 2 années, l'intersyndicale a été construite sur 3 revendications qui n'ont absolument rien à voir avec le corporatisme. 3 revendications, justement. La première revendication, justement, c'est la retraite anticipée, mais la retraite sans condition d'âge, pardon, et la retraite proportionnelle, mais dans toutes leurs interventions, les télévisions, ils défendent justement le système de la sécurité sociale basé sur la répartition et la solidarité. C'est dans toutes leurs interventions, ils défendent aujourd'hui ça, chose qu'ils n'ont jamais fait avant les 2 années. Donc. Moi, je vous dis, j'étais avec eux, vous pouvez taper même sur Internet, leur écrire de télévision, je peux vous envoyer beaucoup de liens de leur intervention, la télévision, les écrits de Waham. Deuxième point, justement, c'est l'avant-projet du compte de travail. Et le troisième point, c'est le niveau de vie, le pouvoir d'achat. 3 points qui n'ont rien à voir avec le corporatisme. Alors que Bakri, c'était le salaire, les enseignants, maintenant la police, maintenant les médecins, je suis d'accord avec vous, pendant 20 ans, c'était uniquement ça. Mais je dis qu'il faut faire attention, les 2 dernières années, il y a un effort énorme qui a été fait pour sortir de ce corporatisme, et je pense qu'il faut les accompagner et les aider, leur tendre la main, et les aider dans ce sens-là, et non pas de les juger sur un truc qui sont en train de dépasser sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut encore les aider à continuer à dépasser le corporatisme. Parce que moi, j'ai assisté, par exemple, l'année passée, j'étais au Canada. Moi j'ai vu du syndicat de base qui vient, qui pose des questions, ils veulent poser quelque chose qui Alors qu'il y a d'autres syndicats qui sont très conscients et qui ont dit, est-ce que vous savez, par exemple, une chose, vous allez me comprendre, vous allez être d'accord avec moi. Les syndicats des enseignants, depuis maintenant 20 ans, qu'ils défendent la retraite après 25 ans de vous savez ça, tout le monde le sait. Et bien depuis 2 ans et demi, ils ont mis ça de côté, dans le cadre de l'intersyndical. Parce que ça ne concerne pas les médecins, ça ne concerne pas le secteur industriel. Quand on est à 25 ans de côté, on ne parle que de 32 ans et de la retraite proportionnelle. Et je pense que ça, c'est un effort immense qui a été fait. Alors que ça fait 20 ans, leur base, jusqu'à mon jeune âge, trop long, il faut revenir à 20 ans, à 25 ans, on la retraite. Et c'est pour ça que je dis que sur ce plan-là, c'est effectivement, sur le plan, il faut être réaliste, pas pessimiste, qui mettra le nec, mais les choses, les petits pas, même les petits pas qui se font pour avancer, il faudrait les juger à leur véritable valeur, pas pour les syndicats autonomes. Je parle même au niveau de l'UGT, à moi, je l'ai dit, l'UGT, il n'y a rien du tout, il n'y a rien à attendre d'appareil. Mais au niveau de la base, moi, je vis avec les gens d'Arruiba, la zone industrielle de Arruiba, je vois à Tizi Ouzo, il y a des noyaux qui sont perdus. Et aujourd'hui, il faut une jonction entre tout ce monde-là qui défend le monde du travail, c'est-à-dire que ce soit les syndicats autonomes, que ce soit les îlots de l'UGT au niveau de la base, que ce soit les associations, le mouvement associatif. Il faut former, il faut qu'on arrive à faire une jonction. Il faudrait qu'il y ait une convergence entre toutes ces forces-là pour défendre une Algérie plus juste, une Algérie pour continuer à défendre une Algérie qui répartit, yani justement, ses richesses. Et en parlant de richesses, justement, en parlant de développement, moi, je donne un avis sur un point important, j'avais dit, Rebah, il avait souligné que c'est fait de l'avant-projet du code de travail. Et les transformations qui se font, ils se font justement au profit du capital social. Et là, je lance un mot, j'ai toujours dit dans mes interventions que ceux qui sont en train de faire, le patronat, le FCE, ce qu'il est en train de défendre, ne travaille même pas pour ses intérêts. Même pas pour l'intérêt de l'FCE. Et je vous donne un exemple concret. Ça fait maintenant 2-3 années qu'il y a un matraquage, qu'il y a une attaque synchronisée contre les subventions, par exemple, de la politique des transferts sociaux en Algérie, avec la retraite Hadi, la politique sociale. Transferts sociaux dans les mains de l'Algérie. Contrairement, il faut les supprimer. Tout le monde, même l'FCE, a fait un truc, a fait un document qui a donné au gouvernement qu'il faut les supprimer. Et les transferts sociaux, sur les 17 milliards de dinars, aujourd'hui, ils sont 16 milliards de dinars, qu'il y a, ils s'attaquent toujours au premier point, logement social. Ça prenait 4 milliards sur les 16 milliards. 25% des transferts sociaux en Algérie, c'est le logement social. Et tout le monde les attaquait, et tout le monde disait que nous sommes le seul pays au monde, alors que ce n'est pas vrai, on dit aux parenthèses, nous sommes le seul pays au monde qui continue à donner des logements sociaux à la population, alors que ce n'est pas vrai. France, hein, logement social, qu'il y a. Mais il y a tout le logement, mais qui se connaît de tous les pas, mais il se connaît un logement social. Mais, regardez qu'il faut enlever ça, l'État ne peut plus subventionner tout ça. Eh bien, le gouvernement, Sélène, n'a fait qu'appliquer ce que lui a dit le FCE. Il commence à arrêter tous les investissements pour le logement social. On arrête les investissements, on arrête le financement. Toutes les entreprises de BTPH sont à la veille de déposer les bilans. Parce que l'État qui est le principal investisseur, l'État qui était le carnet de commandes, l'État qui avait investi, pour tout le monde, il ne faut plus investir. Ou en tout cas, 90% de BTPH, 90% de votre carnet de commandes, c'est l'État. Vous avez coupé le tronçon à l'arbre, les gardiens Fougon. L'arbre, les gardiens Fougon, que t'as tout. Aujourd'hui, si vous avez vu Wittebun, dans sa première déclaration, lorsqu'il a été nommé, là, on va continuer la politique du président et cette politique, en priorité des priorités, c'est le logement social. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà les inconséquences, mais pourquoi je dis que ce soit le code de travail, que ce soit la politique de transferts sociaux, ne travaille pas non seulement pour l'intérêt des travailleurs, mais ne travaille pas pour l'intérêt du pays. Parce que le pays Tana, il a besoin de cohésion, il a besoin de continuer à se développer dans la cohésion sociale, un minimum de temps. Le patronat, il dit, il chope notre dame Tana, il y a comme ça. Donc, ça ne travaille pas pour l'intérêt, y compris de Taham. Et c'est valable pour le système de la retraite qui ne se justifie pas, ou là pour cette affaire du code du travail, où rien n'est justifié. Et que, je termine juste un dernier exemple, je donne la parole à Nassar. L'histoire les subventions à dos qu'on veut enlever, je vous donne l'exemple de la précarité énergétique qu'on veut instaurer en Algérie. La précarité énergétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut aller vers la vérité des prix, parce que le prix de l'essence, le carburant, on dit 10,000, et que l'électricité, on dit à 3 fois le prix de l'hydrocarbure. Prenez l'exemple où je travaille au sud, la population du sud. Ça fait 6 mois, après la loi des finances 2017, nous avons les subventions. Pour le Sud. Et vous avez vu, dans toutes les villes du Sud, il y a eu des manifestations, les gens se sont soulevés et le gouvernement s'est empressé, dans le cadre de la loi des finances 2017, à réinstaurer les 65% de subventions. Ils les ont instaurés pour le Sud aujourd'hui, l'énergie après avoir annulé Al-Rajoua. Pourquoi tout ça? C'est valable pour l'énergie, c'est valable pour le niveau de vie en général. L'Algérien, de revenu en général, et les salariés en particulier, ont un niveau de revenu qui ne peut leur permet pas d'avoir accès aux produits de consommation et à l'énergie si on applique ce qu'il appelle vraiment la vérité des prix. Nous avons des salaires et des revenus 10 fois moins ce qu'il y a en Europe. Vous ne pouvez pas, en Algérie, dans les conditions actuelles, appliquer ce que vous appelez la vérité des prix, parce que l'Algérien ne pourra jamais avoir accès à ça. Aujourd'hui, pourquoi un milliardaire paye le pain à 10 dinars comme il le paye un travailleur? Si demain vous allez vendre le pain à 30 dinars, moi je vous pose la question, le milliardaire il va le vendre, l'acheter à combien? Et le travailleur, il touche 40 000 dinars, il va l'acheter à combien? Ils vont l'acheter au même prix. 40 000 dinars, 40 000 dinars. La seule différence, c'est que celui qui a 40 000 dinars de salaire, il ne va toucher aucune aide, parce que l'aide est ciblée, elle sera destinée pour les gens, il y a donc moins de 25 000 dinars, moins de 20 000 dinars peut-être. Donc 40 000 dinars, il ne va toucher aucune aide, mais il va payer tout, l'énergie 4 fois le prix, le pain 3 fois le prix, le lait 3 fois le prix. Ça veut dire que la classe moyenne va disparaître parce que le pouvoir d'achat va se diviser par 2, par 3. Et le milliardaire dont vous parlez, il s'en foutra complètement parce que la consommation, pour lui, la part de ses revenus qui sont consacrés à la consommation ne représente pas 1%, 0,5% de ses revenus. Donc lui, il s'en foutra. Par contre, c'est la classe moyenne et c'est les travailleurs qui vont en pâtir et c'est la misère sociale qui va toucher cette catégorie.
انا ما راحش نطول كثير. عندي نقطه والنقطتين فقط. في السنتين الاخيرتين هذو صدروا كتابين من دار النشر الكبيره في الجزائر حول دو غرانز اونتربرونور. مش عارف الا اكيد فيه ناس اللي طلعوا على الكتابين هذو صدر بوزي البروبليم تاع لو كابيتاليزم البرجوازيه الوطنيه هذه. لان احنا تكلمنا على النقابات كيفاش ضعيفه, كيفاش العمال منقسمين, كيفاش ضعاف, كيفاش الى اخره. الطرف الاخر مشكل كذلك في الجزائر ومشكل كبير جدا. انا قريت الكتابين هذو في زوج فيهم حوالي 1000 صفحه يتكلم وتطرح مشكل الخبير هذا الرجل ان غران توم تاع 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 ماناجمنت في 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 دوله كبيره في كندا. هو اللي قام في الكتابين ما كاش حاجه حول النقابات. صدير في الكتابين يتكلم على كل شيء, يتكلم على العائله, على الاصل, على الزاويه, على القبر تاع باباه, على الدار اللي كان يسكن فيها, على اولاده, على مش عارف واش. يتكلم على المؤسسه تاعو كيف تطورت, كيفاش بدات صغيره, كيفاش كبرت, كيفاش الى اخره. في الحالتين ما كاش ولو نص جمله حول مؤسسات الحوار والتفاوض والعمل المشترك داخل هذه المؤسسات الكبيره التي تقدم لنا كنماذج. صدر هذين الرجلين يقدمان لنا كنموذج وصدروا كتابين مهمين. صدر بولا بروميير فوا نعرفوا ان بو سكي سباس على انتيريور دو سي دو غران زونتربريز. وهذا مشكل. هذا اذا كان الامر يتعلق بهذا لو دو 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 بروفيل دو غران كابيتاليست بهذا الشكل, وين ما كاش حاجه اسمها نقابه. وكان الكتاب يتكلم على القرن 17 18. صدر كاين مؤسسه تمشي, كاين استثمارات, كاين اموال, كاين ربح, كاين كل شيء, لكن ما فيش نقابة. شويه عمل خيري, قال لو باترا يحب الخدامين تاعو ويحضر العرس تاعهم, وكي يتزوجوا يروح عندهم, وكي يموتوا يحضر معاهم الى اخره. سي شيما, سي ايماج تاع القرن, القرون ما قبل العمل الصناعي, ما قبل الراسماليه, ما قبل. صدر ما تقدرش تبني هذا اعتمادا على مؤسسات صناعيه كبرى. ما تقدرش تبني مجتمع متطور, مجتمع صناعي, مجتمع قادر باش يعيش وينافس بهذا النمط نتاع. هذا بالنسبه للكبار. بالنسبه ل 99 ولا 98% اللي اقل من سي الغابه. تدير لو غرون ديفي تاعنا سي هذا الناس, هذا لو بارتنير اللي لابد ان يتطور. كيف يتطور؟ انا تكلمت على النقابات. النقابه ماشي مساله فقط النقابيين, هي مساله التجربه الاوروبيه. قلنا بان النقابات والعمل النقابي والاستماع للعمال والتعريف بمشاكل العمل والمركزيه, لا سنتراليتي اللي احتلها عالم الشغل في اوروبا, ما تمتش فقط عن طريق النقابه والنقابي, تمت كذلك عن طريق طبيب العمل, عن طريق الجوج, عن طريق المحامي, عن طريق الجمعيه, عن طريق الحي, عن طريق الاضراب, عن طريق التحالفات اللي تكلم عليها عبد اللطيف. كيفاش شفنا عالم الشغل كله ينهار سياسيا؟ هذا الصراع اللي كان موجود في الثمانينات واللي ادى جزئيا على الاقل, تسبب جزئيا في ضياع التجربه اللي كانت عندنا, الصراع بين الاطار والنقابي, الاطار والعامل.
كيفاش الاطارات تاعنا ما كونوش نقابات. سادير عندنا تجربه كبيره تاع الفئه الوسطى هذه اللي كانت سير اللي كانت موجوده بقوه داخل عالم الشغل ما كاش نقابه. ما سمعناهمش الاطارات ما سمعناهمش في الغالب كفئه ماشي كاشخاص يتكلموا على عالم الشغل على تحالفات على عمل على وين كان ممكن انهم يدافعوا على هذه التجربه وعلى عالم الشغل. دونك المساله النقابيه ماهيش مساله النقابيين فقط ومساله الهياكل النقابيه فقط، هي مساله ثقافه اجتماعيه واسعه، هي قيم اجتماعية واسعة يشترك فيها أكثر من طرف، يشترك فيها الصحافي، يشترك فيها الأسرة، يشترك فيها طبيب العمل. الطبيب أطباء العمل قاموا بعمل كبير جدا في التجربة النقابية البريطانية. شكون اللي عرف بمشاكل العمل والعمال والحساب والقياس وإلى آخره تاع ظروف العمل؟ الأطباء تاع العمل اللي كانوا قريبين من عالم الشغل. نفس الشيء بالنسبة للجوج، احنا عندنا باغ اكزومبل ان فيد اكسترا اوردينير في التكوين تاع القضاة سوسيال تاع الفرع الاجتماعي، غياب كلي للثقافة العمالية النقابية. دونك الاعمال المطلوبة منا احنا اعمال كبيرة جدا، وماهيش فقط ماهيش متعلقة فقط بالنقابة والنقابيين. النقابة جزء، هي الجانب المنظم والدائم. النقابة هي العمل الدائم والمنظم من أجل الدفاع عن عالم الشغل، لكن الدفاع عن عالم الشغل يقوم به أكثر من طرف، ولابد من أكثر من تحالف. هذه الكتلة الاجتماعية التي يجب البحث عنها ويجب أن تكون حاضرة في الدفاع عن عالم الشغل. من هنا أهمية البرلمان، أهمية الأحزاب. واش معقول عدم الاهتمام بالحزب السياسي؟ الحزب رغم الضعف تاعهم ضروري أن يكون هناك بعد عمالي نقابي، حس اجتماعي لدى النخب السياسية. تبعتوا كل العيوب اللي لاحظناها في الحملة الانتخابية الأخيرة، كاين غياب تام لمسألة اجتماعية في البرامج وفي النقاش. الحملة الانتخابية الأخيرة النقاش كان نقاش فضفاض عام، لأن ما فيش حوار، لأن ما فيش توافق، لأن ما فيش نقاش. في الغالب الناس تتجه إلى الحلول الليبرالية والنيوليبرالية بدون وعي، بدون معرفة بالنتائج. صدر الناس هكذا، حزب سياسي كبير ما يفكرش من هو الحزب السياسي الآن الكبيرة، تكلم على الحزب السياسي الكبيرة والمتوسطة واللي ممكن تحول إلى أحزاب كبيرة، اللي عندهم نقاش داخلي حول المسألة الاجتماعية في الجزائر. المسألة الاجتماعية الآن في الجزائر كما قال عبد الله أصبحت قضية وطنية كذلك. هذا الدفاع عن ترك الشباب يدخلوا عالم الشغل من دون حماية، ترك البنات والنساء يدخلوا لعالم الشغل من دون حماية نقابية قانونية، ترك الأطفال يدخلوا من دون حماية اجتماعية. ماشي مسألة اجتماعية فقط، هي مسألة كذلك وطنية، هي مسألة وطنية. كيفاش نخليو صدير بناتنا بالآلاف يدخلوا عالم الشغل من دون من دون من دون أدنى حماية قانونية، وهما ما يعرفوش أصلا، يعني ما عندهمش تجربة نقابية، المجتمع ما يتكلمش على النقابات، الصحافة ما تتكلمش على النقابات، الجامعة ما تتكلمش على النقابات، يدخلوا لعالم الشغل كأفراد ويتعاملوا. سادير سي لا بيريود بري سانديكال، ما قبل النقابة، يعني راح يدخلوا إلى غابة اجتماعية من دون أدنى حماية. دونك بور دير فقط بأن قضية النقابية مش قضية تاع نقابات ونقابيين وعقيدة نقابية فقط، هي أعقد من هذا، وهي قضية مجتمع ككل. شكرا.
Juste un mot avant de clôturer, parce que Nasser avait posé la question, même Rebah avait posé la question, pourquoi, à part l'histoire de la liberté nationale, c'est-à-dire, c'est vrai, la réponse il avait donnée, elle qui a, mais pourquoi Tawana, c'est-à-dire, pourquoi avec tout ce qu'on a dit, pourquoi le psy, le patron, il faut tout remettre en cause, y compris parfois contre leur intérêt, et j'ai donné l'exemple d'un bâtiment, c'est-à-dire des entreprises, des centaines, des milliers d'entreprises de la BTPH qui risquent d'être dissoutes à cause de cette situation. Justement des transferts sociaux, c'est la répercussion, c'est l'effet bumerang, c'est-à-dire c'est le retour de manivelle par rapport à cette décision-là, justement d'arrêter les investissements de la Doula. Moi, je pense qu'il y a, au niveau de notre patronat, c'est-à-dire au niveau du privé, du capital en Algérie, non seulement il n'y a pas cette maturité économique, parce que l'agent historique, comme il dit, le privé en Algérie n'existe pas, nous n'avons pas un capital privé en Algérie qui peut, doit développer. يعني الجزائر كي بي اتر ستادير العمود الفقري نتاع ديفلوبمون اون الجزائري نو سولمون هذا يعني دو كوتي ايكونوميك نيكزيست با مي جيم بيربي اني با دو كونسيونس بوليتيك de ce patronat-là qui agit contre ses propres intérêts, et j'ai donné l'exemple de ça. Exactement. Parce que je vous rappelle le débat sur la Constitution. Débat sur la Constitution, il y avait un patron, il y avait quelqu'un qui défendait le Stahem, qui avait dit Flouatan, il avait déclaré directement, il faut, M62 à ce jour, il faut qu'on inscrit noir sur blanc la Constitution, le droit de s'enrichir. Le droit de s'enrichir. Dimashimes qui vient dans aucune constitution du monde, le droit de s'enrichir. Mais quand je le droit de d'investir, le droit de se développer, le droit de s'épanouir, le droit de s'enrichir. Il est parce que le patronat d'Interna, ça fait deux siècles, trois siècles, qui m'a dit Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social, je l'avais dit, il pour le capital ne sera pas toujours le plus fort s'il n'est pas assez fort pour transformer sa force en droit et l'obéissance des travailleurs en devoir. Djebelherbi, c'est ça qui les guide pour faire accepter le code de travail en Algérie. Le patronat, le capital ne sera pas toujours le plus fort s'il n'est pas assez fort pour transformer sa force en droit et l'obéissance des travailleurs en devoir. Djebelherbi, il part sur ce plan-là. C'est-à-dire, Djebelherbi, le pouvoir économique, la décision, ils veulent prendre maintenant le pouvoir politique. Et ça, c'est très dangereux pour l'Algérie, parce qu'il y a plusieurs siècles, il y a quelqu'un qui avait dit que l'argent, c'est comme le fumier. L'argent, c'est comme le fumier. Il est inutile partout, nuisible partout, sauf s'il est répandu. Sauf s'il est répandu, l'argent avec le fumier, il sera. Donc l'argent, mais il sera uniquement s'il est répandu. Mais en Algérie, l'argent s'entasse, il s'entasse jusqu'à où Manarf, Rabi Yeltaf.
Sahid. L'autre, c'est que nous avons dit que nous avons dit que le canon de l'amal, le nass canoni, dans tout le monde, c'est le nass, le tatbiq est le plus important. Et le tatbiq est le plus important. Le canon, tous les canons, surtout le canon de l'amal. Le canon est le plus important, c'est-à-dire, il est حسب ميزان القوى ماشي حسب النص القانوني. أنا يقول لي وهذه نقطة التفاؤل التي لابد من الخروج بها، بأن موازين القوى على مستوى الصراعات اليومية، على مستوى الحركات الاحتجاجية، على مستوى الإضرابات، على مستوى العمل الميداني، هي التي تحدد ماذا تطبيق القانون. القانون في حد ذاته في كثير من القوانين توضع حتى لا تطبق، الذي يطبقها هو ميزان القوى. شكرا.
Donc merci, donc voilà la situation est alarmante, on vient de faire un constat inquiétant, mais il ne faut pas qu'on reste dans ce stade de faire des constats, parce que il faut, à mon avis, s'il y a ce rapport de force en faveur du patronat, en faveur du gouvernement, c'est parce qu'il y a une certaine faiblesse de notre part en tant que société, en tant que travailleur, en tant que citoyen tout d'abord, et il n'y a pas une recette magique, et il faut l'énergie, la matière est là. Moi, je trouve que l'expérience de l'intersyndicale actuellement, elle est encourageante. Il faut la soutenir, comme il vient de dire M. Boudrba. Et voilà, il faut la soutenir. Et il faut défendre, ça veut dire qu'on doit défendre le caractère social de la République algérienne. Quand même, durant la guerre de libération, nos aînés ont combattu pour une Algérie sociale et démocratique. Donc aujourd'hui, on doit conjuguer, créer des jonctions et travailler ensemble pour sauvegarder ces acquis et pourquoi pas en arracher des autres. Donc merci beaucoup à Tekom Saha. On vous donne rendez-vous le week-end prochain, le vendredi. Merci.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.